C'est drôle, je reçois une Charlotte, parce qu'il y a Charlotte qui donne sub, Charlotte Goléa, merci pour le 15e mois, et à tout de suite avec une autre Charlotte. À moins que ce soit mon invité qui donne sub, hyper discrètement. C'est très mystérieux, à tout de suite. Ouvert. Attention. Grosse caméra. Oh là, ce timing parfait. On écoute juste les premières mesures de la suivante.
Ok.
Ouais, c'est un petit peu énervé. C'est peut-être pas un petit peu énervé. Pas sûr qu'on fasse une pause café dans ce stream. On a plein de choses à se dire. Bonsoir les amis. Merci d'être là. Première question, je vais vous présenter Charlotte dans un instant. Première question technique, puisque j'ai voulu montrer à Charlotte, mon invité, notre invité ce soir, ma dextérité sur le maniement d'une porte qui s'ouvre. J'ai l'impression que les enfants vont débouler de tout mon setup. Et on avait un problème de son, on n'arrivait pas à avoir... alerte enfant. Alors non, Malo, c'est un stream de travail là ce soir. Je suis avec Charlotte et en fait, tu voulais faire un quiz Pokémon.
C'est vrai?
Alors peut-être tout à l'heure, parce que là... Il y a Malo qui nous a rejoint, donc on est déjà en alerte enfant. Malo, dont il faut saluer le courage, qui avait rendez-vous avec le dentiste aujourd'hui.
Oui.
Et tu as été super courageux, n'est-ce pas?
Oui.
Mais vraiment, maman m'a dit que tu avais été un warrior. Elle était très fière de toi et moi aussi, je suis fier de toi. Donc du coup, d'ailleurs, on t'a acheté des cartes Pokémon, je crois.
Oui.
Ouais, une dinguerie
plus...
de cartes Pokémon.
Attends. Au moins 50 cartes plus.
De folie.
53 cartes.
Mais t'as été super courageux.
Oui.
Malo, je suis obligé de te demander de nous laisser parce que Charlotte n'est pas là pour longtemps et elle a plein de questions à poser à papa sur Twitch. Donc, tu veux bien y aller, fermer la porte?
Oui.
Et en plus, je sais pas ce que c'est cuisine, mais je peux dire que ça sent jusqu'ici. Quoi. Qu'est-ce que vous allez manger?
Croque-monsieur.
Ah bah c'est ça, on laisse en deux croque-monsieur. Ah, je te laisse fermer la porte, mon chéri.
Mais comment ça s'appelle?
Dis.
Parce que... celle qui travaille là à côté, là-bas.
C'est la maman Charlotte, la dame.
Oui, oui. Elle n'arrive pas à trouver l'émission.
Eh ben, montre-lui. Montre-lui.
Tu le montres, s'il te plaît.
Va lui montrer avec l'iPad. Elle n'arrive pas à trouver l'émission?
Oui.
Bah, toi, tu sais, toi.
Moi non plus, je n'arrive pas.
Ah bon? Eh ben, amène-moi. Ah, tiens, va chercher l'iPad, amène-le-moi.
Okay.
Alors, faut qu'on vous raconte tout ça, c'est génial, j'adore. Alors, bon, alors irruption de Malo. Voilà. J'expliquais qu'on a eu un problème de son, d'où le petit quart d'heure de retard avec Charlotte, mais que c'était réglé. On voulait vous demander si vous nous entendiez bien. A priori, j'ai l'impression que oui, puisque vous nous parlez de la maman de Charlotte. Alors, je vous explique. Charlotte, qui est étudiante et qui fait qui travaille à un mémoire sur Twitch.
C'est ça.
Qui est donc à la maison pour parler de ça et vous poser des questions sur Twitch. Est accompagnée par sa maman ce soir, voilà, puisque bah il fallait se déplacer, voilà.
C'est ça.
Et donc Charlotte, bah t'es pas parisienne et ta maman non plus, bah ta maman est avec nous et dans le salon, elle est cool, voilà. Alors je lui ai laissé les enfants, peut-être que c'est même elle qui est en train de cuisiner, je crois que monsieur, je ne sais pas, et je lui ai filé une tablette pour que la maman de Charlotte puisse regarder, sauf que manifestement elle trouvait pas la chaîne. Donc Malo va nous apporter ça et comme ça ta maman va pouvoir suivre le stream.
Ouais.
Hein, c'est cool ça.
Ouais.
Bon, ça va vous? Alors le principe est tout simple. C'est un grand moment melon, c'est-à-dire que je me suis invité moi-même à la maison sur ma chaîne. C'est une rencontre Étienne avec moi. Donc ça, c'est pour vous faire rire. Le vrai truc, c'est quoi? C'est, je reçois très régulièrement des sollicitations, notamment d'étudiants, d'étudiantes qui, dans le cadre de leurs études, eh bien, réfléchissent à Twitch, par exemple, pour un mémoire et qui ont besoin d'échanger avec des streamers et notamment avec votre serviteur. J'ai vraiment pas le temps de répondre d'habitude pour les raisons que vous savez. J'ai un emploi du temps qui est un peu compliqué.
Oui,
mais le Charlotte m'a fait un petit tweet pour me faire cette proposition. Et ce qui m'a amusé et intrigué, c'est que ce tweet a été très soutenu, Charlotte.
Merci.
Par
toute la promo.
Par tous les camarades en fait, de Charlotte qui disent « Ah, c'est une excellente idée, il faut que... Oui, Samuel, il faut que tu répondes à Charlotte et tout. » J'ai trouvé ça très, très mignon. Donc, j'ai dit à Charlotte « Allez, exceptionnellement, yes, on va trouver du temps. » Et à un moment, je ne sais pas si c'est venu de moi ou de Charlotte ou plutôt d'un viewer, quelqu'un a dit « Mais pourquoi on n'en ferait pas un stream ?» Et là, évidemment, si moi, on me propose un stream, je dis yes tout de suite. Donc, le principe est super simple. Charlotte, qui dans le cadre de ses études, elle va nous dire de quelles études d'ailleurs, fait un mémoire sur Twitch avec un angle particulier dont elle va vous parler dans un instant. Je vais arrêter de parler, je vais lui laisser la parole. Eh bien, on en fait un stream. Charlotte pose ses questions. Donc, exceptionnellement, on va être un petit peu moins sur vos questions et beaucoup plus sur celles de Charlotte. Évidemment, vous pouvez commenter, interagir, poser des questions et tout ça. Voilà le concept. On est ensemble pour un petit stream. On a parlé de 2 heures max avec Charlotte. On avait parlé de 20 heures. Bon, sachant que j'ai lancé avec un petit peu de retard, on va dire qu'on vise les 20h15. Comment ça va, Charlotte?
Ça va. Un peu stressée, mais ça va.
Ouais, c'est normal. C'est la première fois.
Ouais.
Première fois de ce côté-là.
Oui.
Parce que tu es une vieweuse.
Oui, quand j'ai le temps. Quand je pars à la fac en mode podcast. Et ouais. Après, quand je suis à la maison, que je bosse pour la fac, je mets l'écran à côté et j'écoute.
Qu'est-ce que tu regardes sur Twitch?
Beaucoup de jeux vidéo.
Ouais.
Principalement du Pokémon parce que j'adore la licence, notamment avec le nouveau jeu qui est sorti. Et je regarde beaucoup vos émissions quand j'ai le temps et le vendredi soir quand je rentre du sport.
Cool.
Et sinon, je regarde un peu Jean Massier, si je dis pas de
l'excellent
bêtises.
Jean qui voilà. Peut être en live ce soir parce que j'ai vu quelqu'un me disait je quitte le live de Jean pour venir te voir. Donc Jean, c'est un pote, effectivement.
Et sinon, je regarde beaucoup Magla et Ava.
Excellent.
Voilà.
Que des belles choses.
Ouais.
Ok. Donc, vous avez compris que Charlotte connaît Twitch déjà en tant que vieweuse. Et Charlotte, dans le cadre de ses études, quelles études d'ailleurs, Charlotte?
Alors, je suis en master infocom.
Voilà.
Spécialité média, langage et société. Parce que je viens d'une licence justement de sciences du langage, plutôt axée sur la sémiologie, le discours, les médias. Et donc, pour mon mémoire, j'ai décidé d'axer mes études sur l'aspect sémio de Twitch,
ouais.
Donc le langage,
ah, c'est super.
Le discours de Twitch et l'espace un peu spatio-temporel qu'a Twitch et que n'a pas la télé, par exemple.
Bien sûr. Donc l'interactivité,
c'est ça.
L'échange. Et donc, le mémoire sur lequel tu es en train de travailler, il a déjà un titre
Alors, il n'y a pas de titre encore, mais les études elles vont plus s'axer sur la proximité. Des viewers et des streamers
excellent.
Entre eux.
Voilà. Donc voilà, vous avez compris, dans le cadre de ses études, Charlotte est en train de travailler sur un mémoire et qui va porter donc sur Twitch et notamment cette notion de proximité. Alors je montre un petit peu à Charlotte toute l'interface. Donc là, Charlotte, tu as à droite, tu as le OBS qui est le logiciel de streaming, voilà,
ouais.
Donc, sur lequel on a eu un petit problème de son, mais je crois que tu peux témoigner de la dextérité du papy streamer qui a réussi à régler ça. Ici, tu as le chat avec plein de gentils messages. J'espère qu'il sera dispo, ce mémoire, nous dit Piglous.
Bah, j'espère aussi.
Bah, après, il sera dispo, je pense.
Oui, hein, s'il obtient une bonne note, oui.
Ouais, je vous en ferai la publicité. Ah ouais, ouais. Ah, ouais. On va dire au moins 15. Hein.
J'espère.
Au moins 15. Voilà, là, tu as plein d'outils qui permettent de faire des sondages, par exemple, de lancer une coupure pub pour me faire plein de sous ou faire un raid, bien sûr, qu'on fera tout à l'heure. Et puis ici, à gauche, par exemple, tu as tous les gens qui sub.
Ouais. Ah oui, là.
Qui s'abonne, okay. Voilà. Donc je vais remercier I2FProd par exemple pour le 13e mois d'abonnement. Gandalf Listari qui est non seulement un modérateur mais qui en plus qui sub cette chaîne. Gandalf, merci. Merci pour le 14e mois. Je remercie le raid de J-Drums tout à l'heure. Tiens, c'est marrant. Ce serait un truc autour de la des percus ou pas? Parce que drums, parce que si c'est le cas, je trouve ça cool. Je suis en train de regarder ta chaîne où c'est juste que. Non, c'est Multigaming. Tiens, je vous montre la chaîne qui nous arrête gentiment tout à l'heure. Toc. Là, vous avez rien. Là, vous avez Google. Voilà. Multigaming, Drum Cams. Qu'est-ce que c'est Drum Cams? Et du montage vidéo. Alors, drums, pour moi, c'est batterie, c'est percu. J'ai l'impression que Drum Cams, c'est autre chose. Hop. À vous, dans le chat, est-ce que vous avez la ref? Qu'est-ce que c'est les Drum Cams? C'est quoi? Flonou dit batterie, quoi. Ce serait du stream de batterie, auquel cas je vais regarder cette chaîne quoi. Vous êtes beau, merci la Gagnoloche, merci pour ce compliment. Drums, batterie. Ah, si, si, attendez, on va voir les vidéos parce que ça m'intéresse. Ouais, attendez, je vois quelque chose là. Je vois du foot, je vois du jeu vidéo. Je vois pas de batterie là sur la chaîne qui nous a raid.
Non, on dirait que du stream de
ouais,
jeux vidéo.
Moi, je suis très curieux de ça. Mais du coup, je suis un petit peu. Je suis un petit peu. Bon, moi, j'ai été batteur dans une autre vie. Quand j'étais jeune, j'étais batteur. Donc, du coup, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, merci pour le raid. Et hop, je retourne vers les subs. Charlotte.
Oui.
Donc, ça a été le premier sub de ce soir. C'est une autre Charlotte qui nous regarde et qui nous a sub. Merci beaucoup. Merci pour ces premiers subs de la soirée. Et Poetan, à l'instant, merci pour le 11e mois d'abonnement. Donc, tu vois, c'est assez. Tout est là. C'est à la fois simple et compliqué.
Ouais, oui.
Voilà.
J'ai remarqué.
La philosophie globale est simple, mais après, il y a plein de petits trucs à régler, comme tu l'as vu,
ouais, j'ai vu.
Quand on a lancé le stream. Il y a Zudfour qui vient de nous rejoindre, qui dit « Salut tout le monde, j'ai rien compris au contexte. Si quelqu'un peut m'expliquer, je vais te la faire super simple. Charlotte est étudiante et dans le cadre de ses études, fait un mémoire sur Twitch et m'a sollicité pour me poser des questions. Et plutôt que faire ça bêtement autour d'un café, j'ai dit… même si le café n'est jamais loin ici, on va faire un stream puisqu'on va partager cet échange. Voilà, c'est tout simple en fait. Voilà. Bonjour Samuel, pour ton invité, est-ce que tu peux monter un petit peu plus dans mes cours, s'il te plaît, on entend à peine. Est-ce que tu, Alexandra, tu veux qu'on mette plus fort, c'est ça? Tiens bon, commençons par ça. Est-ce que vous nous voyez bien? Oui. Est-ce que le son est bon? Est-ce que mon son est bon? Est-ce que le son de Charlotte est bon? Est-ce qu'on baisse? Est-ce qu'on monte? Et puis après, on démarre avec une première question de Charlotte.
Oui.
L'image est OK. Ok, RAS me dit Broubro06 qui est un modo. Un tout petit peu plus fort pour Charlotte. Je peux booster un tout petit peu Charlotte, bien sûr. Hop.
Après, c'est peut-être moi qui suis un peu loin.
T'inquiète. Voilà, j'ai monté un peu Charlotte. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. J'ai augmenté un petit peu. Donc, les questions aujourd'hui, elles vont venir de Charlotte. Bien sûr, elles peuvent aussi venir de vous en fonction des questions de Charlotte. Ce que je veux dire, vous avez le droit d'interagir. Bien sûr. Études dans quoi? Études.
Infocom.
Infocom. Voilà.
Média, langage et société.
Donc on est en master, c'est ça?
Ouais,
enfin,
master, ouais.
On, toi, parce que oui. Moi, ça fait longtemps que.
En master, ouais.
J'adore l'humour à 2 centimes d'euros dans le chat. Moto, avec Charlotte, on n'est pas aux fraises. Moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo. Charlotte?
Oui.
On ouvre le feu.
C'est à moi, ok.
Et je salue ta maman qui, normalement, si tout va bien, nous regarde dans le séjour, puisque Malou ne nous a pas rapporté la tablette.
Ok, bon alors du coup, merci beaucoup. L'interview, elle va se diviser en deux parties. Première partie, c'est un peu plus sur vous, votre parcours professionnel. Et la deuxième partie, ce sera plus sur l'aspect Twitch, si vous êtes d'accord.
Ok, moi je suis d'accord. Moi.
Ok.
Comme je dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. Donc je suis open à toutes les questions, y compris celles qui dérangent le plus. Bon, sauf quand elles dérangent vraiment, je dis, je ne peux pas répondre à cette question.
Moi du coup, vraiment, je vais faire des questions assez simples au début. Et du coup, je vais commencer par dire...
pour pas faire peur.
Ouais. Est-ce que c'est possible de me décrire une journée de travail et est-ce que vous avez un certain planning à respecter?
Charlotte, tu peux me tutoyer.
Ok.
D'abord parce que, bon, bah, parce qu'on a quasiment le même âge, hein. Je vais avoir deux fois ton âge, je pense. Et aussi parce que sur Twitch, bon, bah, surtout quand on est un peu en mode cool, là, c'est vrai que le tutoiement est un peu plus de rigueur. Tu n'es pas première ministre ou présidente, pas encore.
Non.
Donc on peut se tutoyer. Pas encore. Donc journée type.
Ouais.
Bon, j'ai une vie un peu bizarre. Je me lève à 2h du matin, en général,
okay.
Pour pouvoir être à 3h à France Info, donc la matinale de France Info télé, que j'ai le bonheur de présenter depuis, ouais, c'est ma 6e saison. Je prends l'antenne à 6h sur France 2, 6h30 sur France Info, et ce faisant, je lis tous les quotidiens aussi parce que c'est mon kiff, j'adore la presse écrite.
Ouais.
J'essaie de partager cette passion, notamment sur Twitch, et donc je lis de façon approfondie cette presse écrite. C'est notamment pour ça que je viens aussitôt à France Info aussi, c'est aussi pour avoir un temps pour moi, pour pas seulement lire les unes, mais lire vraiment tous les journaux. Et ce travail-là, il me profite après sur Twitch, puisque je rentre à la maison. En général, je suis rentré vers 9h. Le temps de me prendre un petit café, de faire un coucou aux enfants, de lancer le stream. Et là, je repars pour un deuxième moment de ma journée, qui est donc la matinée Étienne,
ouais.
Où je parle de l'actualité avec vous tous les matins à partir de la presse écrite. Après, petite sieste,
ouais.
Sauf une semaine par mois, qu'on a appelée la semaine qui pique, où au lieu de filer à la maison après France Info, je file à Question pour un champion.
Okay.
Donc 6 à 7 jours par mois. Et là, eh bien, j'enregistre jusqu'à 19h. Donc la journée fait 2h du matin à 19h. Et du coup, il n'y a pas de place pour le stream. Donc y a, bon, bah, les viewers, la commu, ils sont habitués. Il y a 6 à 7 jours par mois, je ne peux pas streamer. D'ailleurs, je suis très triste, mais bon, c'est comme ça. Et puis, voilà, ça, c'est ma journée, on va dire ma journée de base.
Ok, et généralement, combien de temps tu travailles par jour et par semaine? Est-ce que c'est des énormes emplois du temps ou est-ce que des fois, ça peut être de très légers emplois du temps?
Bah, en fait, le France Info, c'est du lundi au jeudi.
Ouais.
Question pour un champion me fait parfois travailler le vendredi, on va dire un vendredi par mois. Mais globalement, souvent, j'ai mon vendredi. Alors, le vendredi, je stream le matin quand je peux. Donc, on va dire que je travaille tous les vendredis quand même, à minima sur Twitch. Mm-hmm. D'autant que j'ai lancé une nouvelle émission fin août, l'hebdo Étienne le vendredi,
oui.
Dont je suis super content. Donc, le vendredi, il est systématiquement travaillé maintenant avec cette émission que j'adore, quoi. Qu'on est à son 12e numéro. Je vais d'ailleurs tweeter ce soir le visuel de la prochaine de vendredi soir. Et puis, le samedi, je ne travaille plus, puisque c'était un deal avec mon amoureuse Hélène que tu vas croiser tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je lui ai demandé si je pouvais privatiser la salle à manger le vendredi soir pour streamer, parce que dans cette pièce où tu es, les invités ne rentraient pas, elle m'a dit, elle a réfléchi un peu, elle m'a regardé, parce que ça va très vite dans sa tête, elle m'a dit, ok, let's go pour la privatisation, mais tu ne travailles plus le samedi, pour sanctuariser un petit peu le week-end avec la famille.
Okay.
Et puis je stream le dimanche, alors soit le matin, la presse, soit le soir, la presse toujours.
D'accord.
Voilà, donc on va dire que j'ai une vraie journée off par semaine qui est le samedi, sauf opération exceptionnelle, stream dans un musée. Voilà.
Ok, et du coup, c'est toi qui choisis quand tu lis la presse écrite les journaux ou est-ce que tu essayes de voir un peu en fonction des sujets qu'ils proposent?
Tu veux dire les viewers?
Non, justement, tu arrives au kiosque, tu vois Le Monde, il propose ça, Le Figaro, il propose ça, Libé, il propose ça. Est-ce que des fois, tu fais ta sélection en fonction des sujets qu'ils abordent?
En fait, non, moi, je suis un peu maniaque. C'est-à-dire, je lis tous les journaux tous les matins.
Ok.
C'est-à-dire, je fais pas de choix a priori, parce que je ne veux pas. Je suis un peu maniaque là-dessus. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le matin, quand je propose la presse, alors que ce soit sur France 2, France Info ou sur Twitch. Je veux pas qu'on me dise « Ah, t'as pas vu dans Le Monde ou dans Libération, il y a un article super intéressant, qu'est-ce que t'en penses ?» En fait, je veux avoir tout lu.
D'accord.
Alors, je fais ma sélection parce que je peux pas tout lire, sinon le stream durerait pas 3 heures, mais durerait 20 heures. Donc, je fais une sélection qui est très subjective dans ce que je trouve important dans l'actualité ou ce que je trouve bien traité dans les journaux.
Ouais.
Mais je lis tous les journaux nationaux.
Ok.
Donc, on va dire, la liste est simple. Hein. C'est Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe, Le Canard Enchaîné le mercredi. Donc voilà, donc je me suis arrêté là, c'est-à-dire je ne lis pas les hebdos, les magazines, sinon la matière serait beaucoup trop importante. Au début sur Twitch, je montrais pas mal la presse en région, la presse régionale, parce qu'on a la chance d'avoir une super presse en région, mais je me suis aussi un petit peu limité, parce que sinon les streams étaient trop longs.
D'accord.
Donc je lis l'intégralité des journaux de la première à la dernière page, pour pouvoir dire, bah, voilà, moi j'ai lu les journaux ce matin, voilà ce que j'ai trouvé intéressant à vous proposer ce matin.
D'accord. Et du coup, en termes de temps, comment tu arrives à trouver le temps entre famille, France TV et Twitch? Est-ce que quand tu es en famille le week-end ou en vacances, tu arrives à te couper entièrement du monde journalistique et même de Twitch, ou est-ce qu'il y a toujours Twitch qui est avec toi dans ton sac à dos?
En fait, tout est très addictif. L'info, c'est très addictif. Moi, c'est une passion. Enfant, je voulais être journaliste. J'ai énormément de chance professionnellement de faire... Des jobs dans lesquels j'ai beaucoup de plaisir, dans lesquels je m'épanouis énormément. Donc, donc France Info, c'est un job, mais c'est aussi un plaisir. Question pour un champion, c'est un job, c'est aussi un plaisir. Et Twitch, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc le problème, c'est que quand on a énormément de plaisir, comme j'ai la chance d'en avoir dans son travail, le problème, c'est de s'arrêter et de se mettre en pause. Donc c'est un peu compliqué. Par exemple, la commu est habituée, mais quand je pars en vacances, souvent je stream. L'été dernier, je suis parti 3 semaines encore, j'ai streamé tous les jours, quasiment.
Okay.
Je suis allé voir la famille au Maroc récemment, j'ai emporté mon setup, ça m'a coûté des centaines d'euros en connexion avec des petites cartes SIM que j'ai achetées là-bas, mais j'ai streamé quasiment tous les jours. Donc c'est compliqué. Alors après, je fais attention aussi, parce que le travail, c'est essentiel. Moi, c'est ce qui m'a construit. La personne que je suis aujourd'hui a été beaucoup produite par l'équilibre que j'ai trouvé dans le travail et le plaisir que j'ai dans le travail. Mais ça n'est pas tout, et c'est même secondaire par rapport à l'essentiel qui est la famille, en fait. Donc je fais aussi attention, malgré cet engagement très important, notamment en termes de volume horaire dans mon travail, à être présent pour la famille. Par exemple, le soir, tous les soirs je suis avec les enfants. Voilà, je suis là pour le dîner. Bon, bah là, pas ce soir exceptionnellement, puisqu'on va être ensemble. Je suis là pour le dîner, je suis là pour le coucher, pour l'histoire du soir, on se raconte nos journées, c'est un moment un peu cool d'échange. Le petit dernier est encore à la maison, je le croise pas mal à la maison quand je rentre le matin, puisque je, voilà, il me voit. Donc après le stream, je passe un moment avec lui. Voilà. Donc à la fois, je travaille beaucoup et je fais attention au quotidien, avoir des plages qui sont réservées à la famille, ou encore la journée du samedi qu'on a évoquée. Et puis j'ai une vigie, un garde-fou qui est mon épouse, Hélène, qui, quand je m'oublie un peu dans le travail, ce qui peut m'arriver, me le dit très gentiment, mais de façon assez cash, en me disant attention, là tu n'as pas fait attention, mais tu as été un peu absent. Donc c'est une discussion qu'on a au quotidien. Jusqu'où mettre la barre du boulot? Alors pour moi, elle est très très haute. Et c'était un peu dans le deal de départ, c'est-à-dire quand Hélène m'a épousé, elle savait que j'étais comme ça.
D'accord.
Elle savait que j'avais ce rapport au travail, qui est un rapport passionné, qui est excessif, qui n'est pas forcément un bon modèle en soi. D'ailleurs, c'est mon modèle à moi, mais ce n'est pas un bon modèle en soi. Mais ça faisait partie du package, quoi. Après, ce n'est pas parce que je suis cette personne-là que je ne suis pas ouvert à l'échange et à la discussion.
Oui, je comprends.
Quand parfois, je fais trop, justement, quoi.
D'accord. Ouais. Et du coup, quelles études t'as fait pour en arriver là aujourd'hui? Est-ce que t'as suivi le parcours basique du journaliste, ou est-ce qu'il y a eu des petites orientations?
En fait, j'ai un parcours qui est bizarre, qui est pas très intéressant, parce qu'il est. Je me suis beaucoup cherché. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être journaliste. Mm-hmm. Mais quand j'ai grandi, j'ai eu des rêves de gloire un petit peu. Et puis, je voulais faire un peu les grandes écoles. Et bon, j'ai voulu devenir haut fonctionnaire. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert l'existence de Sciences Po à la fin du lycée.
Ouais.
J'étais fasciné par cette école. Et donc, j'ai passé le concours de Sciences Po à Paris, rue Saint-Guillaume, à 18 ans après le bac, parce qu'à l'époque, c'était possible.
Ouais.
J'ai eu la chance de réussir ce concours et je suis rentré à Sciences Po Paris.
Okay.
Donc là, j'ai eu des rêves de gloire. Je voulais faire l'ENA, qui à l'époque était vraiment quelque chose de très prestigieux, peut-être un peu moins aujourd'hui. Je voulais devenir haut fonctionnaire. Je voulais faire la section service public. Et j'avais un petit peu oublié ces rêves d'enfant de devenir journaliste.
Okay.
Et finalement, tout ça n'a pas marché du tout.
Ouais.
Et c'est très bien, parce que je n'étais pas du tout fait pour ça. Je n'ai pas du tout fait l'ENA. Et en fait, c'était, je me suis rendu compte assez tôt, en fait, que je n'avais pas les qualités pour faire un bon haut fonctionnaire. Donc, je me suis rendu compte à un moment de ma vie que je faisais fausse route.
Mm-hmm.
J'étais un peu perdu. Donc, j'hésitais. Est-ce que je devais devenir barman à Londres? C'est un vrai projet à un moment. Je suis vraiment parti pour Londres en me disant tiens, je vais devenir barman à Londres parce que je ne sais pas trop ce que je veux faire. Et puis finalement, je ne suis pas allé à Londres et je suis revenu et je me suis dit tiens, enfant, tu avais ce rêve de devenir journaliste et pourquoi pas. Mais comme on s'accroche à une bouée, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, ça arrive. Je ne voulais plus être haut fonctionnaire, ça c'est sûr, mais je ne savais pas quoi faire. Et donc, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et là, j'ai trouvé un petit stage à Ouest France.
Ouais.
À Laval.
Ouais, ça j'ai vu, ouais.
Voilà. Donc j'ai travaillé, je sais pas, 15 jours. Ils ont bien voulu me prendre là-bas, Ouest France, parce que moi j'étais breton, donc ça tombait sous le sens. Ils m'ont pris, et là j'ai écrit un premier papier sur un petit match de foot de gamin au niveau local.
Ouais.
Voilà, il fallait faire son titre, son article et sa photo.
Ouais.
Et j'ai fait cet article, je l'ai signé, et là j'ai compris qu'en fait c'est ça que je voulais faire. Mm. Je me suis dit, ah, oui, en fait c'était sous mon nez depuis le début, parce que je rêvais de faire ça depuis toujours, mais j'avais oublié ça. Et en fait, j'ai compris tout de suite que c'était ça. Et là, je suis rentré dans une spirale hyper positive, donc de plaisir, d'engagement, d'investissement. Au début, la presse écrite, et puis je me rends très vite compte que je suis pas super. Je n'ai pas une plume merveilleuse, je ne fais pas tellement la différence par rapport à mes petits copains.
Ouais.
Je ne trouve pas que mes articles sortent vraiment du lot. Je découvre la radio, notamment le reportage, ça me plaît plus. Et puis dans la radio, un jour, je découvre l'antenne.
Okay.
Je découvre ce qu'on fait ici, en fait. Mm-hmm. Je découvre le micro, le travail sur la voix, le fait de raconter une histoire. Et là, vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Je me dis, ah waouh, ça, j'ai plus de plaisir que dans l'écriture de presse écrite, dans cette écriture audiovisuelle qui joue sur plein de choses, sur la voix, sur les silences, sur l'énergie aussi, sur le fait de raconter une histoire. Et donc, je me dis, waouh, c'est super. Donc, je fais ça pendant quelques années à RFI, où j'apprends mon métier pendant 5 ans, voilà, où là, vraiment, je pose un peu les bases du journaliste que je veux être, dans une très belle rédaction en plus, Radio France Internationale. Et puis un jour, je découvre la télé, un peu par accident, je vois une petite annonce dans Libération, et c'est Disney Channel qui cherche un présentateur pour un JT pour enfants. Et je me dis, waouh, c'est rigolo ça. Et donc j'appelle, je passe un casting, et puis mon expérience de la radio fait que ça se passe bien.
Ouais.
Et donc je présente ce JT pour les enfants, 15 jours par mois, en alternance avec une autre journaliste, en plus des RFI.
D'accord.
Parce que déjà à l'époque, je commençais à cumuler pas mal.
Ok.
J'ai toujours cumulé 2 ou 3 jobs tout le temps. C'est mon système à moi. J'avais l'impression que d'apprendre plus vite, quoi. Et je découvre la télé, je me rends compte que j'ai du plaisir aussi dans cet exercice, mm-hmm. Que je suis plutôt à l'aise, que la caméra ne me stresse pas, au contraire, c'est plutôt comme un pote quoi, à qui je raconte des histoires. Et puis, un moment, je mélange cette expérience de radio et de télé, c'est la création des chaînes info.
Oui.
LCI est née depuis quelques années, c'est la première. iTélé, la chaîne d'info de Canal+, se lance,
oui.
J'écris,
oui.
Et je me fais embaucher au tout début d'iTélé.
Direct comme ça.
Ouais.
Oh, trop bien.
Parce que ben en fait c'était mon cumul de, en fait RFI m'avait appris à présenter des journaux.
Oui.
C'était une chaîne, c'était une radio d'info en continu en fait à l'époque RFI. Oui, oui. M'a appris à présenter des journaux et puis Disney Channel m'avait appris à télé en fait.
Mm-hmm.
Et donc très jeune, ce mélange faisait que j'avais cette petite expérience déjà. Donc je passe le casting, on m'embauche et je reste 9 ans dans le groupe iTélé Canal+.
Et ben ça me fait beaucoup penser à moi ce que tu es en train de dire. Parce que même moi, quand j'étais plus petite, je savais que je voulais devenir journaliste. Mais à un moment donné, dans mes études, je m'étais complètement perdue. Quand je suis arrivée en terminale, je suis allée faire des salons d'étudiants. Et on m'avait dit que pour faire les études de journaliste, il fallait absolument rentrer dans des écoles de journalistes qui ne sont pas sur Parcoursup du coup, aujourd'hui.
Et non, en fait, pas forcément.
Et du coup, ça m'a cassée dans mes rêves. Et du coup, j'ai essayé un peu de savoir qu'est-ce qui me plaisait. Et j'ai tenté les concours d'ortho. Bon, ça ne m'a pas du tout plu. Et en fait, en sortant du bac, je suis allée en licence sciences du langage parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que je voulais tout faire sauf de l'éco, des maths, du droit. Je savais que, et de la médecine, parce que je déteste ça. Et en fait, en rentrant en sciences du langage, quand j'ai un peu commencé à parler avec les profs, ils m'ont dit « Mais si, tu peux reprendre tes... Enfin, tu peux faire du journalisme et tout. » Et j'avais une prof qui était à fond derrière moi, et en fait quand j'écrivais des articles pour la fac, des dossiers, elle voyait que j'avais cet aspect journalistique, que j'avais vraiment la plume très directe, et elle m'a dit franchement fonce, pourquoi tu t'arrêtes, pourquoi t'as écouté ces imbéciles dans les salons. Et du coup ça m'a redonné envie, et c'est comme ça que j'ai découvert le master que je fais aujourd'hui. Et ça me plaît énormément.
Et ta destination, le projet final, c'est de devenir journaliste.
Le projet final, c'est de devenir journaliste, mais j'aimerais beaucoup faire du journaliste sur Twitch.
Ah, alors ça, c'est très intéressant.
Voilà, j'aimerais beaucoup proposer du contenu, pas forcément que de l'actualité, mais de la culture, du jeu vidéo, du manga, vraiment, parce que j'adore ces domaines.
En fait, le projet, c'est de devenir streameuse.
Oui, streameuse, mais voilà. Ouais,
d'accord, mais avec notamment un contenu info.
Voilà, c'est ça.
Alors, ce que Charlotte vient de souligner, c'est super intéressant. Le journalisme, c'est une profession ouverte. Alors, qu'il l'est moins qu'avant, mais qui est ouverte. Ça veut dire quoi, une profession ouverte? Ça veut dire qu'il n'y a pas de parcours idéal pour devenir journaliste. Alors, si vous demandez à des professionnels, ils vont vous dire, bah oui, c'est bien de faire une école reconnue par la profession, puisqu'il y a des écoles reconnues et d'autres qui ne le sont pas. Et puis, on peut parler d'un espèce de parcours idéal qui pourrait être, par exemple, Sciences Po.
Mmh.
Sciences Po, un IEP en région ou Sciences Po Paris, suivi d'une bonne école de journalisme. Donc ça, bon, c'est un très bon parcours, mais il y en a 1000 autres en fait. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des études d'économie, qui ont fait une école de commerce, qui ont fait de la recherche scientifique, qui, à un moment de leur vie, ont eu envie d'autre chose, qui sont devenus journalistes.
Mmh.
Parfois, journalistes spécialisés éco, journalistes spécialisés sciences, par exemple. Des gens qui sont devenus journalistes et d'excellents journalistes, alors qu'ils n'ont pas fait du tout des codes de journalisme. Donc aujourd'hui, le journalisme est un métier qui s'est professionnalisé, c'est-à-dire que la part des journalistes, notamment détenant la carte de presse, sortant d'école de journalistes, est beaucoup plus importante qu'avant. Voilà. Mais il y a une part encore importante de la profession, et heureusement d'ailleurs, et c'est tant mieux, sinon ça veut dire qu'on a toujours les mêmes profils un petit peu formatés, viennent en fait de parcours très très différents. Et c'est une chance pour ce métier d'ailleurs. Parce que sinon, on aurait un peu toujours les mêmes profils, de gens qui pensent un peu toujours la même façon, formés toujours par les mêmes gens.
Ouais.
Et donc, ton parcours, je le trouve intéressant, parce que tu n'as pas fait à ce stade d'école de journalisme, peut-être que tu n'en feras pas, et ça ne va pas t'empêcher de devenir une excellente journaliste.
Bah, merci.
Donc ça, c'est super important, en fait, pour toi, pour ceux qui veulent devenir journaliste, et pour notre métier aussi.
Bah, c'est ça, parce que pendant mes études, du coup, j'avais 3 spécialités. Soit je pouvais devenir prof des écoles, c'était la voie que j'avais choisie, soit je travaillais donc dans l'analyse du discours des médias, soit je devenais prof de français à l'étranger. Donc je faisais une FLE. Et du coup, au départ, j'avais dit que je voulais devenir prof parce que c'était la voie un petit peu facile dans les études. Mais après, je me suis rendu compte, grâce à ma prof, que c'était ça que je voulais faire. C'était du journalisme que je voulais faire parce que j'adore ça depuis que je suis toute petite. Pas forcément de la politique parce que je ne suis pas trop politique, mais justement le fait d'être pas forcément devant la télé mais à la radio ou dans la presse écrite, pouvoir écrire ce que je ressens sur les informations qui tombent, c'est vraiment quelque chose qui me passionne.
En tout cas, t'as plein de messages d'encouragement. Nina et d'autres estiment que tu es là aussi pour me piquer mon job, il n'y a pas de problème. MMG, CTF qui est un des modos. Charlotte, future streameuse, je follow tout de suite. Alors, je crois que la chaîne n'est pas encore créée, mais peut-être que si.
Bah, il me faut le setup, hein, et c'est voilà. Tout.
Bon, maintenant, je pourrais t'accompagner un petit peu sur cet aspect-là. Bien sûr, je sens que la création de la chaîne de Charlotte est pas très lointaine. Je lis quelques messages parce que je vous lis aussi un petit peu, bien sûr. Je remercie les subs. Loafing Flow, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Clamakin, merci pour le cinquième mois. J'adore. Il y a Clamakin qui écrit parce que Clamakin, c'est maintenant j'ai l'habitude, aime bien faire des blagues et écrit: je dois prendre mon TER pour venir à l'ITV, peux-tu me faire un Lydia de 200 euros? Mais pas de problème quoi, merci de sub massivement pour pouvoir payer le TER de notre ami. Un TER à 200 euros, c'est possible ça? TVA 74, merci aussi pour le 12e mois d'abonnement. Poétane pour le 11e mois. Et à l'instant, écrivain, bah, c'est quelqu'un qui a créé sa chaîne Twitch autour de l'écriture, de la littérature, de la lecture, et qui en fait m'a contacté avant la création de sa chaîne.
D'accord.
Pour échanger un petit peu là-dessus,
okay.
Pour me demander en fait si c'était une bonne idée. Et évidemment, je l'ai encouragé. Aujourd'hui, c'est un streamer. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. D'ailleurs, écrivain, écrit comme je vous l'appelle ERCIT 20 VAINC. Voilà. Et auteur de très bons. Très bon jeu de mots aussi sur oh le joli raid, je l'avais pas vu. Je vais remercier notre ami chocolatier Paul Gardère dans un instant. De très bonnes blagues sur Twitter aussi. Oui, on vient d'avoir un joli raid, tu vois.
Là, ah oui.
Charlotte, c'est chocolatier Paul Gardère. C'est un chocolatier streamer.
Ok.
Dans le sud de la France.
Trop bien.
Voilà. Avec qui on échange, que j'ai raid plusieurs fois, qui me raid aussi régulièrement maintenant. Merci aux amis de Paul qui nous rejoignent. Et qui m'a, tiens-toi bien, envoyé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours par la poste, une énorme boîte avec plein de chocolat. Paul, ils sont délicieux quoi. Vous tapez Paul Gardère sur internet et je pense que vous trouverez sa boutique. Je suis sûr que Paul, enfin j'espère que tu le fais, vend en ligne. Grèce Vert, merci pour le sub. Aussi, je vous lis un petit peu et on enchaîne avec la prochaine question de Charlotte. Tiens, on me dit que tu devrais interviewer Étoile aussi. Jet Dwarf. Hein, c'est vrai que c'est une bonne idée. Très bonne idée. L'ami Étoile, qui est celui qui m'a introduit dans ce milieu, qui m'a un peu tout montré. Vous le savez, c'est un petit peu mon maître Jedi. Qu'est-ce que j'ai loupé, Julien? On est au début du stream, tu n'as rien loupé du tout. C'est qui le stagiaire à gauche? On ne veut que Charlotte. Le stagiaire à gauche, c'est moi, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, il y a Def GD qui, par rapport à la professionnalisation de mon métier, n'est pas d'accord. Et moi, j'aime les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça m'intéresse quoi. Pas d'accord avec ça, me dis-tu. Le journalisme s'est professionnalisé à partir du 19e siècle avec l'émergence des reporters. Aujourd'hui, on a une tendance inverse. Certes, le journalisme s'est autonomisé. Il repose moins sur les universitaires. Les journalistes sont formés aux sciences sociales et n'ont plus besoin d'intellectuels pour écrire. Bref, autonomisé, oui, mais le journalisme est de moins en moins professionnalisé. En fait, tu as raison, mais je précise ma pensée. On va mélanger nos deux idées, tu vas voir, on va arriver à un truc intéressant. Le journalisme s'est professionnalisé ces dernières décennies dans la mesure où il y a encore 20 ou 30 ans. La majorité des journalistes qui avaient leur carte de presse en France n'avaient pas fait d'école de journalisme. Voilà. La professionnalisation de ce métier, c'est tout simplement l'idée que des gens ont commencé de plus en plus à passer par des écoles de journalisme. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur plus de 50% de gens qui ne viennent pas d'école. Aujourd'hui, la grande partie des gens qui ont des cartes de presse, et attention, la carte de presse ne veut pas dire, ne suffit pas à définir le journalisme, et le journaliste, bien sûr, mais sortent d'école. C'est pour ça qu'il y a eu un moment de professionnalisation. Mais ce que tu décris est juste aussi. Il y a de plus en plus de gens, en fait, qui sont des créateurs de contenu à caractère journalistique. Pensez à Jean Massier, par exemple. Pensez à Hugo Décrypte.
Ouais, aussi,
qui ne sont pas forcément passés par les écoles de journalisme, mais qui clairement font du journalisme. Donc, tu as raison aussi. Et ce que décrit notre invité Charlotte ce soir, qui va peut-être demain faire du journalisme, notamment sur Twitch, sans forcément passer par une école, et l'illustration de ça. Donc il y a eu un mouvement de professionnalisation, et il y a un mouvement aujourd'hui aussi d'autonomisation, et tu as raison de le souligner. Voilà. Encore une question, et puis la main à Charlotte. Ok, il y a Gigi qui dit ne regarde pas ton chat, laisse Charlotte te poser des questions, nous on te connaît un peu plus. Ok, vous avez raison, la main à Charlotte.
Est-ce que quand tu prépares un journal pour la 6 heures info sur France Télévisions,
ouais,
il y a forcément des sujets qu'il faut traiter en priorité? Par exemple, quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, il fallait absolument parler de ça, mais est-ce qu'on a quand même cette petite liberté de pouvoir choisir certains sujets d'actualité qui n'ont rien à voir forcément avec ce qu'il faut parler en priorité?
En fait, toute rédaction a cette liberté. C'est-à-dire, dans toute rédaction, bah, un peu sérieuse, quoi, il y a ce débat qui est permanent de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité? Enfin, il n'y a rien qui s'impose à nous. C'est-à-dire, ouais, que le matin, concrètement pour France Info, mais c'est vrai pour toutes les rédacs, la première discussion, c'est de quoi on parle. De quoi on parle. Et on en discute. Et on n'est pas d'accord, d'ailleurs. Et on s'engueule. C'est des débats assez vifs. Parce qu'à chaque journaliste correspond une grille de lecture, une sensibilité par rapport à l'événement. Moi, j'aime beaucoup l'actualité internationale. Certains, ça ne les intéresse pas forcément. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste du foot, etc. Donc, c'est des débats. C'est pour ça qu'il y a un rédacteur en chef, quelqu'un qui doit trancher un moment dans ces débats. Sinon, il n'y aurait jamais de journal à la fin, quoi. Donc, c'est un débat permanent. Et chaque rédaction a cette liberté de choisir dans l'actualité ce qu'elle veut mettre en avant. Et non seulement chaque média a sa ligne éditoriale, donc ses propres choix, mais dans chaque média, il y a des débats qui sont permanents, qui sont incessants, qui se manifestent notamment dans ce qu'on appelle les conférences de rédaction.
Ouais.
C'est ce moment de la journée, sur une chaîne de télé, une grosse chaîne de télé, il va y en avoir trois par jour, une le matin, une à la mi-journée, une le soir, qui est le moment où la rédaction se rassemble, les rédacteurs en chef, les rédacteurs, les chefs de service, pour discuter justement de cette question de quoi on parle, qu'est-ce qu'on choisit et comment on raconte. Est-ce qu'on fait un reportage? Où est-ce qu'on va faire ce reportage? Est-ce qu'on invite un invité? Qui? Etc. Et donc, c'est un débat non-stop dans les rédactions et qui est passionnant d'ailleurs. Parce qu'on a cette liberté, en fait, de parler de ce qu'on veut.
Ok. Et du coup, j'ai perdu ma question.
En fait, tu demandais est-ce que le journaliste, la rédaction est libre de choisir dans l'actualité ce dont elle
parle.
Oui,
voilà, c'est ça. Et du coup, comme tu présentes ton journal TV, tu dois garder toujours cet aspect objectif de ce que tu racontes. Est-ce qu'en étant sur Twitch, tu peux justement donner ton avis que tu as donné, enfin, face aux viewers, que tu as pu donner en réunion avec tes collègues, par exemple?
Oui, tu as raison. Alors, Twitch est un instrument de liberté. Alors, le journaliste, dans certaines conditions, peut donner son avis. Le journaliste doit tendre à l'objectivité. Moi, je préfère le mot d'honnêteté, parce qu'on est tous subjectif, on est tous remplis de filtres conscients ou inconscients qui sont liés à l'endroit où on est né, notre culture, notre éducation, notre sensibilité citoyenne, politique. Et en fait, même en tendant vers l'objectivité, même le plus objectif des journalistes, en fait, il est subjectif, qu'il en ait conscience ou pas. Donc le mot d'objectivité, il est intéressant, mais ça doit être un objectif. Et en fait, il faut bien prendre conscience que quel que soit le journaliste qui vous parle, même s'il vous dit qu'il est objectif, en fait, il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce qu'en fait, son travail est subjectif. D'abord, il fait un choix dans l'info. Il ne vous parle pas de tout, il vous parle de certains sujets. Et puis, consciemment ou inconsciemment, il va dire des choses, choisir des mots, mettre l'accent sur certains faits qui fait qu'en fait, son travail est subjectif. C'est pour ça que je crois plus à l'honnêteté du journaliste qui dit, voilà, moi, j'ai constaté ça. Voilà ce que je pense, voilà ce qu'on peut en dire. J'ai travaillé avec rigueur. Je suis allé dans une rédaction, il y a des reporters, donc le reporter est allé sur le terrain, il a constaté, il a interrogé les gens, il a essayé de se faire l'idée la plus objective possible du sujet, et la rédaction essaye de répercuter ce travail de la façon la plus honnête possible, mais avec plein de subjectivités liées à plein de choses. Un reporter saoudien, un reporter israélien, un reporter américain, un reporter russe, un reporter chinois, un reporter français va avoir l'impression de travailler en toute objectivité, et pourtant, si on leur demande à tous de faire le même reportage, eh ben, il va sans doute être très très différent parce que chaque reporter est rempli de subjectivité.
D'accord.
Donc oui, c'est un objectif. Et quant à revenir à ta question sur la liberté de ton, c'est ce que je voulais dire, c'est que le journaliste a quand même le droit de donner son avis dans le cadre de ce qu'on appelle un édito, un éditorial. Dans la presse écrite, c'est un très bel exercice. Vous avez un moment dans un journal, un édito, un éditorial. Édito, ça veut dire quoi? C'est un journaliste qui dit, attention, là, je ne suis pas que dans la constatation des faits, je vais vous donner mon avis. Parfois même, c'est le journal qui donne son avis, c'est-à-dire que l'édito n'est pas signé. Dans Le Monde, la tradition, souvent, c'est que l'édito n'est pas signé, c'est le journal qui donne son avis.
Ouais.
Mais c'est indiqué, il y a comme une lumière rouge qui s'allume en disant « ça n'est que notre avis, et vous en faites ce que vous voulez
mm-hmm. ».
Ça, c'est l'édito. Sur Twitch, je suis un petit peu en édito permanent.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que comme j'ai une vraie liberté de ton et que je n'engage pas la responsabilité de mon employeur, et en l'occurrence France Télévisions, eh bien, je dis beaucoup plus souvent que sur France Info, par exemple, mon avis sur les choses. Mais j'essaie de le signaler. Donc, c'est pas marqué édito,
ouais.
Mais en général, donc, j'expose les faits. Et puis, à un moment, je dis aux viewers, à la communauté, je dis, et voilà, et voici mon avis.
D'accord.
Voilà ce que j'en pense. Et souvent, je dis, ça n'engage que moi. Ça ne vaut que par ma subjectivité.
Mm-hmm.
Ça ne vaut pas plus que ça. Parlons-en, donnez-moi votre avis. On échange, mais ça n'est pas de l'info, ça n'est pas des faits. C'est le regard très subjectif de Samuel Etienne, né à un endroit, éduqué de telle façon, né dans tel pays, avec un système de valeurs qui est celui-ci. Et tout ça peut se discuter.
D'accord.
Ça n'empêche pas le journaliste de donner son avis,
ouais.
Mais il faut bien qu'il essaye de séparer
okay.
les faits de son opinion.
Et du coup, est-ce que tu arrives quand même à donner des avantages à la profession de journalisme et forcément des inconvénients de la profession? Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la profession?
Ben, d'abord, c'est... moi, je suis venu au journalisme, alors, d'abord pour une raison un peu étrange qui est... parce que j'aimais les mots. J'adorais lire, j'adorais écrire. Donc, normalement, la conclusion de ce genre de goût, c'est de devenir écrivain.
Mm-hmm.
Sauf que j'ai constaté assez vite que, un, j'en avais ni le talent, ni le courage. Parce que je crois qu'il faut beaucoup de courage pour se lancer dans ce type de carrière. Et très tôt, enfant, je constate que le métier qui, pour moi, s'approche le plus de celui-ci, mais de façon beaucoup plus moins aventureuse, si on veut, le métier plus classique,
ouais.
Le vivre du commerce des mots, bah, très vite, je me dis, bah, le journaliste, en fait, il passe son temps dans les mots, il passe son temps à lire des choses, et il passe son temps à écrire des choses. Et donc, en fait, je viens au journalisme par goût pour la littérature.
Mm-hmm.
Puisque je me dis, je vais vivre du commerce des mots, mais de façon moins aventureuse qu'un écrivain, qu'un romancier. Et puis, la deuxième raison qui vient un peu plus tard, en grandissant, et notamment à la fin du lycée, quand je commence à m'intéresser à l'actualité, je commence à lire les journaux, bah, c'est un goût croissant pour l'actualité étant en fait la tentative de comprendre le monde dans lequel on vit.
Oui,
et aujourd'hui, bah, plus on a bien compris que plus on avançait, plus le monde devenait compliqué.
Mmh.
Et donc, à un moment, la presse est pour moi l'outil qui permet d'essayer de mettre un peu de sens,
oui,
sur ce qui se passe autour de nous. La crise environnementale, les crises qu'un pays comme la France peut traverser, les crises que nos voisins ou les pays étrangers peuvent traverser, pour tenter de mettre du sens et pas être complètement dépassé par ça,
mmh,
et aussi essayer de jouer son rôle de citoyen, puisque par exemple pour participer aux décisions que prend notre pays via le vote, bah, il faut tenter d'être un citoyen éclairé, c'est-à-dire, mmh, à peu près comprendre comment ce qui se passe, et donc informé. Bah, tout ça fait que, bon, ça c'est ce qui m'intéresse le plus dans le journalisme.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui m'intéresse le moins dans le journalisme? Qu'est-ce qui est pas cool dans le journalisme? Je sais pas. Bah, je vois pas trop, en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est le seul métier que j'aurais pu faire, quoi. Donc c'est une vocation, c'est un truc au quotidien très très fort. Parfois il y a des frustrations,
mm-hmm,
qui justement sont corrigés par Twitch. La frustration, c'est quand tu travailles dans une rédaction,
oui,
tu as, chaque journaliste a sa vision de l'info,
oui,
de ce qu'on devrait faire, sauf qu'en fait il se met au service d'un regard éditorial qui n'est pas que le sien, qui est celui d'une équipe, voilà. Donc parfois tu te mets au service d'un projet éditorial qui n'est pas forcément exactement ce que tu penses,
mm-hmm,
et pour cause, c'est normal. Chaque membre d'une rédaction donnée a une vision de ce que devrait être l'info, donc,
oui,
à un moment, bah, parfois tu es un peu frustré parce que tu vas parler d'infos qui ne t'intéressent pas forcément.
Oui.
Tu vas traiter des infos d'une manière qui ne sont pas forcément celles que tu voudrais utiliser.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est normal parce que, en fait, tu te mets dans un collectif. Là on parle beaucoup de football en ce moment.
Mm.
Bon, bah, un joueur, il a un style, il a un talent, sauf qu'en fait il est tributaire des choix de l'entraîneur,
ouais,
qui va le placer sur un moment sur un terrain en disant tu vas jouer comme ça. Il ne va pas forcément être d'accord d'ailleurs.
Non, ouais.
Bah, un journaliste, il vit ça au quotidien, bien sûr. Moi je ne fais pas ce que je veux.
Mm-hmm.
Après, c'est aussi... Plus tu vieillis et plus tu es en capacité de choisir les endroits où tu travailles.
Oui.
Au début, tu n'as pas tellement de choix parce que c'est un métier qui est un peu compliqué au début. Donc, tu vas où on veut bien de toi.
Mm-hmm.
Et il y a un moment, parce que tu gagnes en expérience en expertise, en assurance aussi, bah tu choisis les endroits où tu travailles. Et aujourd'hui, je travaille dans des endroits, notamment à France Télévisions, où l'adéquation entre ce que je pense, ce que doit être l'information et la façon dont France Télévisions le fait, en fait, il y a pas beaucoup d'épaisseur, quoi.
Ouais.
Je valide le projet éditorial et donc c'est pour ça que je suis heureux d'être là. Mais Twitch, toutes les frustrations qu'on vient d'évoquer, elles n'existent pas ici.
Oui.
Parce que je suis le présentateur, le journaliste, le directeur de la chaîne, le technicien, comme tu l'as vu tout à l'heure. Donc il y a zéro frustration. Je parle d'infos comme je voudrais qu'on parle, comme si j'étais tout seul, parce que je suis tout seul, quoi.
D'accord. Bon, là, je vais poser une petite question un peu tendax. De façon générale, est-ce qu'on gagne bien sa vie en étant journaliste ?
J'en étais sûr.
J'ai vu
dans tes yeux qu'on allait parler de thunes, et je suis sûr qu'ils vont être contents dans le chat parce que ça y est, ça intéresse toujours ça. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de réactions là. Je suis sûr que ça va réagir. Les sous, allez, attention, on va faire des grosses annonces là. Ça rigole. Let's go. Ouais. Le pognon. Bon, alors je bois un peu de café, je me lance. Alors, est-ce que ça gagne bien ? Hein, c'est la question.
Ouais, est-ce que ça gagne bien ?
Alors, déjà, ça gagne mal. C'est-à-dire que, ami jeune, hein, qui n'avait pas encore choisi ce que vous voulez faire plus tard, si vous voulez faire de l'argent, ne faites pas de journalisme. Déjà, première chose. Vous allez pouvoir gagner votre vie, vous allez pouvoir payer vos factures, si vous avez de la chance, c'est-à-dire si vous arrivez à percer dans ce métier qui est un peu bouché parce qu'il attire plein de gens.
Oui.
Plus de gens que cette profession ne peut absorber, ça a toujours été le cas et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc si vous avez la chance de percer, globalement, vous allez pouvoir en vivre, vous allez pouvoir payer votre loyer, remplir votre frigo, vous allez pouvoir en vivre. Vous allez sûrement pas y faire fortune, sûrement pas. Alors il y a dans la profession, comme dans tous les métiers, il y a des stars.
Oui.
Hein, des stars de la télé, de la radio. Alors, je choisis volontairement ces deux médias parce qu'en presse écrite, les revenus sont un peu inférieurs.
Oui.
Si on veut graduer, pour dire les termes, l'échelle des salaires, on va dire que le journalisme qui va payer le moins, c'est la presse écrite.
Mm-hmm.
La radio va payer un peu plus, mm-hmm. et la télé va payer un peu plus.
D'accord.
Et puis après, dans chaque média,
ouais.
évidemment, il y a des activités qui rapportent plus que d'autres. Le présentateur en télé va, ça dépend des chaînes, mais globalement, on va être dans les salaires les plus intéressants.
D'accord.
Voilà.
Mais par exemple, si moi, imaginons, je suis présentateur télé du JT de 20h.
Ouais.
Est-ce que je vais gagner plus qu'un journaliste qui bosse, par exemple, le matin
ouais.
ou dans l'après-midi, sachant qu'il y a, je pense, un peu moins d'audience, vu qu'on est dans l'après-midi, par exemple.
Bah, le présentateur du 20h, c'est ce qui fausse parfois un petit peu le regard sur les revenus des journalistes. C'est la star.
Oui.
Il y a deux 20h en France. Il y a deux 20h. Il y a 20h de France 2, le 20h de TF1.
Oui.
Il n'y en a que deux.
Oui.
Donc, les places sont très, très chères. Elles sont données, attribuées à des gens qu'on estime dans la rédaction extrêmement compétents.
Mm-hmm.
On ne donne pas le 20h à n'importe qui. Et donc, comme il y a très très peu de place, forcément, on est sur les plus gros salaires de la rédaction.
Oui.
Donc, parfois, il y a des salaires qui fuitent un petit peu. Alors certains, voilà, je vois des salaires qui sont très importants. Là, je vois Andalang qui dit sur TF1, c'est 50K, 70K par mois. 70K par mois. À une époque, l'époque de la télé-reine, je pense que TF1 a pu payer ses présentateurs de JT sur des salaires comme ça à peu près.
Mm-hmm.
Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui.
D'accord.
Les salaires de ces présentateurs stars des JT à une époque n'existent plus aujourd'hui. Je pense qu'on est un peu en dessous.
Mais pourquoi ?
Parce que en fait, le nombre de chaînes s'est multiplié.
Oui.
Quand il y avait 3 chaînes, ou 4 chaînes, ou 6 chaînes, présenter le 20h, qui est le pic d'audience de la chaîne, avec les enjeux, notamment économiques, que ça représente, avec les pubs, puisqu'on parle de TF1 par exemple. C'est un carrefour d'audience très important. Bon, les enjeux sont tels qu'à un moment que le présentateur de ce JT-là touche beaucoup d'argent, économiquement, c'est cohérent. Quand il y a 3 chaînes, quand il y a 6 chaînes, mais quand il y a 10 chaînes, 20 chaînes, 30 chaînes, que de l'info, il y en a partout, pas seulement aux 20h, mais il y en a le midi, il y en a toute la journée, il y en a le soir, il y a les chaînes info et tout, forcément, le poste, il est moins prestigieux. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de présenter un 20h parce que pour moi, c'était le Graal, quoi.
Ouais.
Aujourd'hui, pas du tout.
Non.
Concrètement, même aujourd'hui, on me propose le 20h de TF1 de France 2, je le refuse en fait. Ça ne m'intéresse pas.
D'accord.
Alors que ça m'a fait rêver jeune.
Ouais.
Je trouve que le poste n'a plus le même enfin, plus le même intérêt. Mm-hmm. En plus, c'est un poste très compliqué, très exposé, où tu es très critiqué. Voilà. Voilà.
Bah oui, ouais, je donc, comprends. Bon, ouais.
Franchement, je trouve que aujourd'hui, pour dire les choses, c'est un poste que je trouve pas forcément aussi bien payé qu'il devrait l'être, mm-hmm. vu son côté difficile au quotidien, notamment le fait d'être extrêmement exposé et parfois extrêmement critiqué, mm-hmm. notamment par les téléspectateurs. Il suffit de voir les polémiques qu'il peut y avoir autour de certains présentateurs de JT. Donc moi, c'est un truc qui me fait pas du tout rêver. Et en plus, bon, aujourd'hui, ça fait 25 ans que je présente les infos. Mm-hmm. Ce serait pas une aventure pour moi. C'est-à-dire oui. que je sais à peu près faire ce truc. Je dis pas que je le ferais bien ou que je le ferais mieux que d'autres. Je pense même que d'autres le feraient bien mieux que moi. Mais disons que je sais à peu près le faire. Or, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre de nouvelles choses. C'est pour ça que je suis sur Twitch. Mm-hmm. Mais pour revenir, parce que je sais qu'il y a de la curiosité par rapport au salaire. Donc là, il y a plein de salaires qui tombent. Soyons clairs. La télé paye mieux que la radio mieux que la presse écrite. En gros, les présentateurs, longtemps, ont été les gros salaires des chaînes et le sont encore un peu. Moins qu'avant, mais encore un peu. Voilà. Pour être encore plus concret, je ne vais pas donner de chiffres pour ma part.
Oui, non, mais ça, je comprends.
Pourquoi, en fait ? C'est parce que je pense que si vous êtes honnête, vous serez d'accord avec moi. Le rapport à l'argent, il est un peu compliqué en France.
Oui.
Voilà. Les gens ne donnent pas publiquement leur salaire. Enfin, c'est très, 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 très peu. Il y a des pays où c'est un truc qui peut être tout à fait exprimé, aux États-Unis notamment, où on donne son salaire de façon assez facilement, je crois. En France, ce n'est pas du tout ça. Donc, si vous cherchez les salaires, par exemple des présentateurs des principaux rendez-vous d'information ou d'animation en France,
oui.
si vous les cherchez, vous ne les trouverez pas.
D'accord.
Et non, si vous cherchez sur Internet, ces infos n'existent pas.
D'accord.
Parce que personne ne les donne.
Oui.
Personne. Donc là, il y a plein de chiffres qui sont donnés parce que il y a des articles qui ont été écrits, il y a des journalistes qui ont essayé de trouver, mm-hmm. Qui ont interrogé des gens. Mais si vous cherchez aujourd'hui un chiffre fiable de salaire de présentateur ou d'animateur en France,
d'accord.
vous allez trouver des estimations, vous allez trouver des tentatives au doigt mouillé d'estimation, mais vous ne trouverez pas le chiffre parce que personne ne les donne. Parce qu'il y a ce rapport au salaire en France qui fait qu'on n'en parle pas bien. Quoi. Parfois ça sort, par exemple, y a un moment où ça sort, mm-hmm. c'est quand ça va en justice. Quand
okay.
un journaliste ou un animateur part au prud'homme, par exemple avec la chaîne, mm-hmm. ça arrive de temps en temps, bah là, les chiffres, ils sortent. Bah parce que les avocats parlent.
Oui, ils parlent à la presse.
Ils parlent à la presse, bah parce qu'il y a des demandes d'indemnisation qui sont calculées par rapport justement au salaire.
Ouais.
Donc là, à un moment, ça sort.
Ouais,
et puis parfois, à un moment, il y a un des interlocuteurs qui a intérêt en off de faire sortir l'info. Je donne un exemple, par exemple. À un moment, la chaîne qui est en procès avec un animateur ou un présentateur, ça arrive régulièrement. Et à qui l'animateur demande beaucoup d'argent, mm-hmm. en compensation, un licenciement par exemple, la chaîne va faire, c'est arrivé, hein, va faire fuiter le salaire.
Exprès.
Dans la presse.
Ouais.
Voilà, on va répondre à une question de journaliste en off, c'est-à-dire pas de façon officielle, ou va faire fuiter l'info en mode, on va faire fuiter l'info pour montrer que ce monsieur ou cette dame gagnait quand même beaucoup d'argent,
ouais.
et qu'elle n'a pas forcément besoin qu'on lui fasse un gros chèque. Donc c'est le seul moment quasiment où on connaît à peu près le salaire des gens, c'est quand il y a des problèmes. Donc moi, je ne donne pas, vous avez compris, mes salaires. Pour cette raison-là, je peux vous dire quoi ? Que tout à l'heure, je disais, le journalisme n'est pas un métier où vous allez faire fortune. Moi, j'ai de la chance. Mmh. J'ai de la chance et j'ai beaucoup travaillé aussi. Je vis très bien de ce que je fais. Ça n'a pas été le cas tout de suite. Ça a été très, très, très long. Mais j'ai énormément travaillé. Et j'ai aussi eu de la chance, bien sûr, dans mes rencontres, dans les propositions qu'on m'a faites. Et donc, aujourd'hui, je vis très bien. Alors, je n'ai pas fait fortune, mais oui. je vis très bien. Les factures ne sont pas un souci pour moi, notamment parce que je suis arrivé à des postes sympas où je suis correctement payé. Et en plus, je suis un cumulard. C'est-à-dire que j'adore faire plusieurs choses en même temps. Mm-hmm. Pas forcément pour des raisons financières, parce que je fais ça depuis tout le temps. J'ai toujours fait plusieurs métiers en même temps. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté très tôt que je n'étais pas plus doué qu'un autre, mm-hmm. voire plutôt moins. Je voyais plein de collègues, de confrères qui étaient bien plus doués que moi dans l'exercice.
D'accord.
Du journalisme, de la présentation. Et donc, très tôt, je me suis dit, OK, pour faire la différence, pour arriver à faire des trucs sympas, mm-hmm. Tu vas travailler plus que les autres.
Oui.
Donc, ce système, je l'ai mis en place. Et donc, ça fait 25 ans que je travaille pas 7 jours sur 7, mais pas loin quand même, mm-hmm. avec des amplitudes horaires parfois un peu folles, quoi. ce que je vis aujourd'hui est pas très différent de ce que j'ai fait depuis 25 ans. Mm-hmm. Donc à un moment, bon, bah, ça a marché, tant mieux pour moi. J'ai un salaire correct à Question pour un champion, j'ai un salaire correct à France Info, et Twitch me propose aussi une troisième rémunération.
D'accord.
Tout ça cumulé fait que j'en vis plutôt bien aujourd'hui, mais je dors 3 heures par nuit et je donne beaucoup à ce métier, quoi.
Ok, et est-ce que du coup, tu parlais de Twitch, est-ce que les subs que tu as sont destinés justement pour la plateforme Twitch ou par exemple pour autre chose je sais pas ce que ça pourrait être, mais quand je parle de plateforme Twitch, c'est augmenter un peu le setup, te professionnaliser encore plus. Et justement rémunérer les personnes avec qui tu travailles, enfin en tout cas essayer.
Ben oui, c'est enfin Twitch en fait aujourd'hui c'est mon troisième revenu, c'est-à-dire que par ordre d'importance, Question pour un champion est mon gros salaire, mon plus gros salaire, France Info est mon deuxième salaire, et Twitch arrive en troisième position par rapport à ça, alors que j'y passe plus de temps en fait que sur mes autres métiers, mais c'est un autre modèle économique. Donc les subs, j'en tire un revenu mensuel depuis que j'ai monétisé ma chaîne avec l'accord de France Télévisions. Qu'est-ce que j'en fais? Ça va sur un compte de société, parce qu'on ne peut pas toucher ça directement, il faut que ça passe par une société.
D'accord. Hein.
Donc Twitch fait un virement tous les mois en fonction des subs, de la pub et des bits que vous envoyez, merci à vous. Et puis donc Twitch fait un virement tous les mois une fois qu'ils ont pris leur part, et ça tombe sur le compte de ma société, donc ça tombe pas dans ma poche. Et après cet argent, bah, je peux en faire plusieurs choses, booster le setup. Donc là récemment j'ai investi dans un nouveau PC qui est juste derrière là, un deuxième setup de stream. Voilà, là t'as un carton qui doit pas être loin.
Là, ici.
Voilà, il y a deux nouvelles lampes là qui viennent d'arriver à la maison.
Okay.
Voilà, il y a des nouveaux écrans. Donc régulièrement, j'investis quand j'ai fait des streams en extérieur, dans les streams dans les musées par exemple. Bon, bah, j'ai investi dans pas mal de trucs et tout. Donc une partie de l'argent qui va vers ça. Je suis à la recherche par ailleurs d'un partenaire, d'un sponsor pour mon émission du vendredi. L'hebdo Étienne, parce que je sens que cette émission on tient un truc sympa. J'ai envie de la faire grandir, j'ai envie de l'améliorer sur la forme d'abord, avec un habillage, avec un peu plus de matériel pour accompagner ce mouvement de professionnalisation de Twitch qu'on est en train d'observer, avec des prods qui sont de plus en plus importantes, avec de plus en plus de moyens. Au début je voulais pas aller vers ça, moi je voulais le côté artisanal de Twitch me plaisait bien, mais je pense que si on prend pas ce virage, comme on a des productions de plus en plus ambitieuses, avec de plus en plus de moyens et de beaux plateaux, on a vu ce qui s'est passé récemment avec ces énormes streams de GP Explorer, de ce qu'a fait Amine autour du match France-Espagne, de la qualité de setup, de plateau, de popcorn, de Jean Massier, par exemple. Donc à un moment, je me dis, les viewers vont commencer à s'habituer à cette qualité, et peut-être qu'il faut aussi aller vers ça, même si c'était pas mon objectif au début, puisque j'avais l'impression de reproduire un petit peu ce que je faisais en télé. Donc du coup aujourd'hui je recherche un sponsor un par un que j'ai peut-être trouvé d'ailleurs, avec qui je suis en train de discuter pour accompagner le développement de mon émission du vendredi, pour la rendre encore plus sympa, et notamment pouvoir rémunérer tout le monde.
D'accord.
Pouvoir rémunérer Joe qui vient réaliser, pouvoir dédommager les invités que je veux fidéliser aussi. Donc en fait je cherche un budget pour l'émission du vendredi, pour la pérenniser, pour que tous les gens qui m'aident et qui travaillent avec moi soient récompensés et rémunérés, et pour me verser aussi un petit revenu sur cette émission, parce qu'aujourd'hui l'émission du vendredi par exemple, qui est sympa, elle me coûte de l'argent, elle me coûte plus cher qu'elle ne me rapporte.
D'accord.
Parce que bon, vous êtes vraiment des crevards d'ailleurs, parce que les subs du vendredi, ça en gros, ça me paie pas les macarons, ça me paie pas les taxis.
Ouais, j'allais dire ça.
Pour les invités, vous êtes vraiment des gros crevards pour l'émission du vendredi. Et donc là, bon, en gros, je cherche un sponsor pour pouvoir payer ce que je voudrais payer, parce qu'à un moment, on peut pas compter sur le bénévolat des gens.
D'accord.
Pour faire une émission, c'est juste pas respectueux. Donc à un moment, je veux payer les gens qui travaillent avec moi, les remercier. Donc j'espère en janvier trouver un sponsor pour le faire, sinon concrètement je vais être obligé d'arrêter, parce que je peux pas demander à plein de gens, les invités ou les gens comme Joe qui m'aident au quotidien, de me donner du temps qu'ils ne consacrent pas ailleurs, gratuitement pour mes beaux yeux.
D'accord.
Donc si le modèle économique de cette émission je le trouve pas, et je sais qu'il me faut un sponsor, concrètement cette émission elle va s'arrêter début 2023, quoi. Ce qui est pas mon objectif, et ce qui va pas se faire.
J'espère
pas. Donc je cherche ce parrain.
D'accord.
Quoi. Je remercie les... Oh, on a un énorme raid là. Merci beaucoup Bassui. On a plus de 300 personnes qui viennent de nous rejoindre. Oh,
trop
c'est
bien.
Adorable ça. C'est tellement beau les raids. Ça, c'est un truc qui me fascine quand même sur Twitch. C'est que ça, en télé, on peut pas faire ça, quoi.
Mais c'est ça, en fait, que j'ai envie de parler dans mon mémoire, c'est que cet aspect de proximité qu'il y a aussi entre les streamers, c'est que c'est pas chacun pour soi, c'est vraiment de l'entraide entre tout le monde et j'adore ça, en fait.
Pour moi, c'est une des fonctionnalités qui résume le mieux Twitch.
Ouais.
C'est la possibilité de raid, c'est-à-dire de porter un éclairage à la fin d'un stream sur le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Voilà. Évidemment, c'est pas possible en télé ou en radio. Je pense que même si c'était possible techniquement, personne ne le ferait, puisqu'on est dans une logique de concurrence, bien sûr, entre chaînes. Et je trouve que ça, c'est beau, ça. Et donc là, il y a Bastui qui vient nous faire un très beau raid. Merci aux centaines de personnes, de viewers qui nous ont rejoints. Et je suis sur la page ici. Du coup, c'est quoi de lui, designer d'interface, ok. Designer d'interface, Basti. Je stream mon travail ici, de lui, de l'UX, de l'illustration, du motion design, un peu de casu, gaming, TMTC. Je ne comprends pas un traître mot de ce que je viens de dire, mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs,
TMTC, toi-même, tu sais.
Hein, c'est
ça ? Je crois.
Ah, excellent. Toi-même, tu sais. Oui, bah, c'est confirmé.
C'est ça ? Ouais, c'est ça.
Merci. Bon, je follow la chaîne, donc je vais en savoir un peu plus, puisque j'irai voir un petit peu ce que tu fais. Un grand merci pour ce raid. La parole à Charlotte, j'ai assez parlé comme ça.
Alors, il me reste deux questions sur la partie journaliste, après je vais basculer sur Twitch. Alors, en cours, j'ai un CM qui s'appelle Industrie de contenu,
ouais.
Et on est en train de parler justement sur le fait d'économie d'attention, ou même de regarder en différé ou pas les émissions de télé. Et en fait, on s'est demandé si justement le fait de regarder en différé une émission de télé, donc par exemple... J'ai manqué Ça commence aujourd'hui de Faustine sur France 2 et je le regarde sur l'appli. Est-ce que pour toi c'est regarder la télévision ou est-ce que c'est regarder du stream?
En fait, c'est pas important. Enfin, c'est pas important dans le sens où il y a un moment, les distinctions entre écrans, elles tombent d'elles-mêmes, quoi.
Mm-hmm.
Ta question, elle est pertinente. Une émission en replay, est-ce que c'est encore de la télé ou c'est pas de la télé? Un stream de React sur Twitch, c'est encore du stream ou c'est de la télé, tu vois?
Ouais.
Donc en fait, il y a un moment où tout se mélange et l'important, c'est la proposition. C'est ce qu'on regarde, en fait.
Mm-hmm.
Finalement, écran, tablette, téléphone, PC, télé, est-ce que tout ça est vraiment si différent que ça? Je crois pas. Je crois que tout ça est en train d'un petit peu de se dissiper.
Mm-hmm.
Les frontières deviennent un peu floues. Et ce qui est intéressant, au final, c'est la qualité de ce qui est proposé. Popcorn, c'est une émission qui emprunte beaucoup au code de la télé.
Ouais.
C'est un beau plateau, il y a des moyens, il y a un budget,
mm-hmm.
il y a un présentateur, il y a des chroniqueurs, il y a des invités. Certains disent c'est de la télé. C'est pas forcément... Non, c'est pas de la télé. C'est aussi des codes de Twitch, des valeurs de Twitch, une ligne éditoriale qui est très liée à Twitch. Donc pour moi, c'est encore du stream.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que c'est un peu... ça emprunte à la télévision. Télé ou Twitch, peut-être un petit peu les deux. Peut-être que demain, on va voir des programmes à la télé qui vont s'inspirer de choses qu'on a vues sur Twitch.
Oui.
Arte, qui est assez présent et avec des propositions de qualité sur Twitch,
mm-hmm.
hein, qui a la chaîne Arte sur Twitch. Bon, bah, est-ce que Arte sur Twitch, c'est de la télé, parce que c'est fait par Arte, ou est-ce que c'est du stream? Bah, mm-hmm. C'est peut-être un petit peu les deux. Voilà, donc tu vois, ces questions, elles sont pertinentes, mais je crois que toutes les frontières sont un petit peu en train de se dissiper. Le seul critère qui est intéressant, c'est quelle est la qualité de ce qu'on vous propose.
D'accord.
Plus que finalement l'endroit où on le regarde.
Mm-hmm.
Moi, je consomme tous les écrans et pour moi, c'est un différencier.
Ok, je comprends.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, les amis, là? C'est juste un médium de communication. Je suis d'accord avec ça, en fait. Exactement. Je suis d'accord avec ça. Je voulais un petit peu là-dessus parce que c'est un débat qu'on a souvent. Le replay, c'est comme un magnétoscope, c'est de la télé, donc voilà, oui.
Mm.
Oui. Alors par exemple, je sais pas, moi ce que je dis à France Télévisions en ce moment, je leur dis, vous avez une richesse de programmes de fou, vous avez plein de documentaires, d'émissions, de débats, d'actualités, des émissions de divertissement, mais en fait il y a plein de gens qui connaissent pas forcément vos programmes,
mm-hmm.
et qui sont des programmes de qualité. Il y a un truc très malin que pourrait faire France Télévisions, par exemple, c'est de faire du React, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein de streamers qui s'emparent des programmes de la télé,
oui.
pour faire du contenu, ce qu'on mm-hmm. appelle le React. Pourquoi à un moment France Télévisions n'irait pas streamer son propre contenu sur sa chaîne Twitch?
Bah ça, j'adorerais faire ça.
Tu vois, en fait, ouais. ce serait pertinent parce que, en gros, imaginons que France Télévisions choisisse chaque semaine une émission qu'elle veut un petit peu mettre en avant,
mm-hmm.
un doc vachement intéressant. Voilà. Bon, je trouverais intéressant que France Télévisions sur sa chaîne Twitch diffuse, je sais pas, le jour même ou avec quelques jours de retard, ce programme,
mm-hmm.
mais en mode React pour échanger avec les gens.
Bah, comme vous avez fait avec Merci pour le sub.
Exactement, voilà. Avec l'accord de France Télévisions, ce documentaire qui a été financé par la télé suisse, si je ne dis pas de bêtises, et France Télévisions, je l'ai fait en React quelques jours après. Et on est sur, du coup, une valeur ajoutée. C'est un autre programme parce que, évidemment, on n'est pas que sûr, on n'est pas tout seul. Attention, c'est un long à regarder le programme et à se poser des questions, mais un petit peu tout seul éventuellement sur ce qu'il voit. C'est, on est en train de le regarder ensemble, et ça c'est super. On est en train de le regarder ensemble et on est en train d'interagir pour poser des questions ensemble, y répondre.
Oui.
On est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc demain, je dis n'importe quoi, ça n'existe pas, hein, mais si France Télévisions fait du React sur ses propres programmes sur Twitch, est-ce que ce sera de la télé ou est-ce que ce sera du stream? Bah, ce sera un peu les deux.
D'accord. Mais du coup, si une chaîne de télé, par exemple, elle a envie de se lancer dans du stream, j'ai vu que West France, il l'avait fait à un moment donné, et que même BFM TV l'avait fait, mais ça a fait un flop total.
Flop.
Sauf pour deux émissions, il me semble. C'était pour parler justement du manga de l'Attaque des Titans et du manga One Piece.
Sur BFM, ils ont fait ça ?
Ouais, sur un stream. J'ai adoré ces émissions parce que j'adore ces mangas. Et du coup, en fait, je trouve ça hyper intéressant que les chaînes de TV qui sont d'origine destinées à de l'actualité politique essayent de trouver un autre chemin de communication justement pour les jeunes qui sont de moins en moins présents sur la télévision. Et du coup, je trouve ça bien qu'ils le fassent, mais ils le font pas assez. Et du coup, je me suis demandé, si une chaîne de télé, elle voulait se lancer sur, sur Twitch, est-ce qu'elle devrait pas justement avoir une fan base sur les réseaux comme Twitter ou Insta ou TikTok pour pouvoir se lancer en pleine confiance sur la plateforme?
C'est très compliqué pour un média traditionnel de se lancer sur Twitch. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Parce que moi, quand je suis arrivé, par exemple, certains étaient très très inquiets en pensant que je pouvais être une espèce de tête de pont pour que la télé débarque massivement sur Twitch. Ce que je ne voulais pas faire d'ailleurs, mais les gens ont fini par s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que la télé envahisse Twitch.
Ouais.
Twitch, c'est un magnifique outil avec ses codes, ses valeurs. Et si les gens sont sur Twitch, les streamers et les viewers, c'est parce qu'a priori, ils ne trouvent pas dans les médias traditionnels une offre qui leur plaît.
Mm-hmm.
Donc, il ne faut surtout pas que la télé envahisse Twitch. En revanche, il n'est pas interdit à des acteurs traditionnels des médias, télé, radio, presse écrite, tu parlais de West France, de trouver beaucoup d'intérêt à Twitch en disant, un, bah, ça va nous permettre de parler à un public qui ne nous connaît pas, et deux, de faire autre chose aussi. Parce que concrètement, si une chaîne de télé pensait par exemple que Twitch n'est qu'un robinet dans lequel on met des programmes, par exemple, tiens, on va diffuser un documentaire sur Twitch, tiens, on va diffuser une série, ça n'a aucun intérêt, bien sûr, et personne ne regarderait s'il n'y a pas une dimension de React et de commentaires. Donc, pourquoi pas pour faire autre chose. Mais c'est très difficile, et tous les exemples que tu as donnés sont intéressants. BFM a essayé d'y aller.
Mm-hmm.
Globalement, ça a été un échec. Mm-hmm. Donc, je crois qu'ils ont arrêté.
Oui, ils n'ont pas...
TF1 y est allé. Personne ne s'est rendu compte, parce que c'était un truc super discret, c'était un peu en sous-main. Ils ont demandé à une boîte de bosser là-dessus, et ils ont proposé des streams qui n'étaient pas brandés TF1.
Ah ouais ?
Non, c'était pas marqué TF1, c'était pas marqué LCI, mais c'était fabriqué par des gens de TF1 et LCI.
Ok, d'accord.
C'était très curieux.
Mm-hmm.
C'était, moi je l'ai vu comme une espèce de prise de température, parce qu'ils avaient vu ce qui s'était passé avec BFM. Ça a été vraiment très compliqué pour BFM. Et donc TF1 y allait très très discrètement, tellement discrètement que personne ne s'en est rendu compte d'ailleurs. Et je crois que le truc n'existe plus non plus. Voilà. Ou alors tellement...
Si, il existe.
Ah, ça existe encore ?
Ouais, j'ai regardé, il y a encore, je crois, 2-3 vidéos à propos de Koh-Lanta.
Récemment ?
Je pense.
Récemment,
ouais.
Et il y avait du monde ou pas ?
Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai juste vu qu'il y avait eu des lives, mais j'ai pas.
C'est très discret. On sent que c'est un peu des ballons sondes, ils tentent des choses. West France a mis des moyens, mais les résultats sont pas au niveau des moyens qui ont été mis par West France. Radio France, on le sait pas forcément, mais tente des choses depuis quelques années déjà, pas seulement sur France Info, la radio depuis la rentrée, mais France Inter a tenté des choses, etc. Avec des moyens, avec une vraie ambition, et ça n'a pas fonctionné non plus. C'est-à-dire que la salle, à un moment, elle reste vide.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que je crois que Twitch est d'abord une rencontre entre une personne, une personnalité, Charlotte, Samuel, et les viewers.
Voilà.
Et on crée à un moment une communauté, on est à peu près d'accord sur des trucs qu'on a envie de faire ensemble. Voilà. Et je crois que un des succès de Twitch, c'est ça, en fait. Cette relation qui se crée.
Oui.
Alors qu'une institution, une chaîne de télé, dont l'incarnation va changer, par exemple.
Oui.
C'est-à-dire que le lundi, vous aurez Tartampion, le mardi, quelqu'un d'autre, avec des rendez-vous différents, un peu désincarnés. Bah, il ne va pas y avoir cette relation de streamer à communauté. Quoi.
D'accord.
Je crois que c'est l'une des raisons, l'une, mais pas seulement, pour lesquels ça a été très compliqué. Et c'est compliqué aujourd'hui pour les médias traditionnels d'arriver sur Twitch. Arte, ça fonctionne plutôt bien.
Ouais.
RMC, on m'en parle souvent. Dealer de Dream en parle. Je crois que ça marche plutôt bien aussi. Donc, ce serait intéressant de voir pourquoi Arte, par exemple, et RMC, ça fonctionne bien. Est-ce que vous me donnez d'autres exemples ? Je suis en train de remonter le chat.
Bah, peut-être parce que c'est pas de la politique, justement. C'est pour ça que ça marche. Peut-être.
Oui, mais même la politique. Hein. Par exemple, nous, sur France Télévisions, sur la chaîne Twitch de France Télévisions, pendant la présidentielle, on a fait des streams avec les candidats à la présidentielle dans la foulée du 20h et ça marchait.
Oui.
Mais c'est plus compliqué pour
eux de se lancer.
Pour une institution, quoi. Ouais, parce qu'il y a de la défiance. Et puis parce qu'il y a aussi un problème de liberté de ton. Qu'est-ce qui est sympa sur Twitch, c'est de pouvoir dire les termes, de pouvoir s'exprimer librement parce que on n'engage pas l'image d'une entreprise, d'un groupe, d'une rédaction. Voilà. Mm-hmm. Quand on parle sur un média, on engage toute sa rédaction, toute sa chaîne, toute son entreprise. Donc on fait à peu près attention à ce qu'on dit.
Mm-hmm.
Voilà. On peut s'amuser avec les mots, on peut rigoler et tout. Mais globalement, la liberté, elle est limitée parce que vous n'êtes pas tout seul. Mais un streamer, en revanche, il a cette liberté qui fait que il peut pousser des coups de gueule, il peut faire des blagues plus ou moins réussies. Et cette liberté de ton, cette liberté de pensée, elle est précieuse et c'est ce qui fait la qualité du lien.
Ouais.
La liberté de ton est sans doute aussi ce qui empêche les médias traditionnels de réussir sur Twitch. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous lis un petit peu. Jean Twitch me dit « France Info, ça marche bien ». Oui et non. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce que font nos confrères de France Info, la radio. Mais si vous voyez les moyens qui sont engagés dans cette aventure qui sont importants et les audiences aujourd'hui de cette chaîne France Info, vous vous rendez compte que c'est compliqué. Le contenu est vachement intéressant. Je pense que France Info, la radio, a compris ce qu'il fallait faire en tant que média traditionnel sur Twitch. Franchement, rendez-vous quotidien du lundi au vendredi avec de l'humilité, avec une démarche de qualité, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais je pense que les audiences ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'elles devraient être par rapport à la qualité du programme, tout simplement parce que c'est France Info et que c'est pas juste l'animatrice qui est sur sa chaîne perso quoi.
J'en ai vu un qui parlait de proximité, je sais plus où est-ce qu'il est, mais du coup ça m'a permis de rebondir sur une question que j'avais.
Ouais.
En gros,
parce que Charlotte en fait s'intéresse beaucoup à cette question de Twitch et de la proximité, je crois même que ce sera un peu le cœur de ton mémoire. Hein.
C'est ça. Et en fait ça m'a fait penser que début du mois je suis allée à la Paris Games Week pour expérimenter du jeu vidéo. Et j'ai vu plein de streamers que je regarde pas forcément, mais que je vois beaucoup sur les réseaux, qui ont participé au GP Explorer, qui ont participé au Z Event. Et en fait, j'ai eu l'impression de pouvoir avoir accès à cette proximité que je ne peux pas avoir accès avec des journalistes de la télévision. Pourquoi je t'ai contacté toi ? Parce que je me suis dit, il est sur Twitch et je vois qu'il y a cette proximité sur Twitch que je peux toucher. Et pour moi, c'est plus facile d'interagir avec quelqu'un qui est présent sur Twitch que quelqu'un qui est présent sur la télévision.
Tiens, t'as le commentaire que tu voulais, c'est Kim Dam qui dit oui, c'était moi. Il y a un sentiment de proximité qui s'installe sur Twitch qu'on peut pas voir à la télé.
Voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve que le fait que sur Twitch il y ait cet espace de chat, de commentaires, de retour direct, on peut voir ce que les autres pensent et comme ça on peut interagir directement sans, par exemple, on regarde le TV, le JT de 20h, pour un journaliste, on doit attendre que le JT se termine pour aller sur Twitter, regarder les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, et ensuite...
Et éventuellement échanger.
Voilà, c'est ça. Et du coup, je trouve que ça bien sur Twitch, on répond direct, et si on voit qu'il y a une réponse qui ne nous plaît pas, ben on la laisse, et après, on passe à autre chose.
En fait, tu as raison à 2000%. En fait, cette proximité, qui est la raison essentielle pour laquelle je suis là-dessus, sur Twitch, en plus de la liberté de faire ce que je veux à peu près, parce que j'ai un employeur qui me laisse cette liberté, cette proximité, elle est forte humainement et elle est forte intellectuellement.
Oui.
Humainement, parce que ce dialogue qu'on a au quotidien quasiment sur cette chaîne avec vous ce soir, là vous êtes un peu plus de 3000 par exemple, c'est hyper fort. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas IRL, même si parfois ça m'arrive de rencontrer des viewers et de prendre des cafés, ça peut arriver. On ne se connaît pas IRL, mais voilà, on échange. On n'est pas d'accord sur tout, mais on crée du lien, même dans nos différences d'analyse sur l'actualité, dans nos différences d'opinion. On se respecte. Voilà, j'ai essayé de définir un cadre assez chill ici que vous respectez aussi. Donc on se respecte et on échange autour de l'actualité et on n'est pas seul.
Ouais.
Et on est moins seul. Mm-hmm. Moi qui ai une vie sociale inexistante, qui n'existe pas, puisque je
travaillais tout le temps.
Voilà, je travaille tout le temps, donc il y a le travail et ma famille. Je ne vois personne d'autre en dehors du travail et de ma famille. C'est comme ça, c'est le choix que j'ai fait. Et bien, humainement, bah, ça, c'est super fort. C'est-à-dire que tous les matins, le matin, je lance mon stream. Je peux être crevé parfois, 9h30, je lance et puis je vois les premiers messages qui s'affichent et puis je vois les gens qui prennent de mes nouvelles, mm-hmm. les gens qui se donnent de leurs nouvelles entre eux. Voilà, à un moment, quelqu'un nous dit, ah ben, c'est un peu difficile en ce moment, je suis malade ou je viens d'être opéré ou je viens de perdre mon boulot. Et ben, on s'arrête et on en parle. Et les gens envoient des messages de soutien. Voilà. Et puis parfois, moi, je ne suis pas au top et j'explique pourquoi. Et on m'envoie de la force et on m'envoie de l'amour. Mm-hmm. Donc, ça va dans les deux sens. Et ça, humainement, c'est waouh. Voilà. Et je pense qu'une grande partie du côté addictif de Twitch pour les streamers, c'est ça, en fait. Mm-hmm. C'est une fois qu'humainement, on a créé quelque chose, c'est super fort. Moi, ça a pris une part très importante dans ma vie. Ça me donne beaucoup de plaisir au quotidien de savoir que j'ai des gens avec qui échanger sur l'actualité, mais sur la vie aussi, quoi. Et puis d'évoluer, parce que là ça fait presque ça va faire 2 ans mm-hmm. que je stream et donc évidemment ici on parle de l'actu, puis l'actu c'est la vie, donc on évoque aussi les grandes questions de la vie, du sens de la vie, du sens qu'on doit donner à sa vie, mm-hmm. des priorités qu'on doit donner au travail ou à la famille, on en parle au quotidien, et puis un échange, et puis sur certains points j'ai changé, j'ai évolué, il y a ma sensibilité aux questions environnementales, mm-hmm. elle est plus forte qu'il y a 2 ans.
Oui, parce que vous avez l'occasion de discuter avec votre chat.
Et avec des gens qui m'ont sensibilisé à ces questions.
Ouais.
Ma position que j'ai prise sur le mondial de foot récemment, je ne l'aurais sûrement pas prise si je n'avais pas eu ce commerce quotidien, ces échanges sur Twitch. Parce que qui, en fait, m'a sensibilisé à toutes ces questions problématiques posées par ce mondial, en fait, c'est vous. C'est les gens avec qui j'ai échangé, les viewers, en lisant quelques articles depuis quelques mois sur cette Coupe du Monde. Donc, cet échange quotidien m'a changé, m'a fait évoluer. Voilà, même sur des certitudes que j'avais, voilà. Et puis donc ça c'est le côté très fort humainement, puis là c'est le deuxième aspect qu'on est en train d'évoquer, c'est l'aspect très fort intellectuellement. Mm-hmm. Quand on est journaliste, quand on se passionne pour l'info, qui est donc la tentative de compréhension de la marche du monde, échanger au quotidien avec des milliers de personnes qui peuvent avoir le même avis que toi ou mais un autre avis aussi, mais intellectuellement c'est une folie. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des arguments dans le chat en disant ah ouais ça je suis pas d'accord, mais c'est hyper pertinent, mais c'est ah bah tiens, j'avais jamais pensé à ça. Tous les jours, je vois des messages.
Ouais.
Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça.
Ouais.
Ça nourrit ma réflexion sur l'actualité.
D'accord.
Et ma réflexion sur l'actu est enrichie parce que je lis. Tiens, c'est Guy Boublil qui écrit La contradiction à la base. Mm-hmm. Voilà. Et donc, humainement, intellectuellement, c'est très, très, très fort, quoi.
D'accord.
Une fois qu'on a mis la main là-dedans, mm-hmm. c'est impossible de sortir. Parce que cet aspect humain de l'échange avec le viewer qu'on appelle le téléspectateur en télé, il n'existe pas en télé.
Ouais.
Je reçois un mail de temps en temps ou une lettre de temps en temps, mais pas, c'est pas ça.
Ouais.
Et puis intellectuellement, c'est pareil, j'ai pas d'échange avec les spectateurs. J'échange un peu avec mes confrères, mm-hmm. mais on est un peu tous les mêmes. On a les mêmes parcours, les mêmes formations, même si on n'est pas d'accord sur tout, on sort un peu du même moule. Mm-hmm. Là, dans le chat, là, j'ai pas 3200 journalistes.
Non.
J'ai des étudiants, j'ai des retraités, j'ai des docteurs en physique nucléaire, j'ai des sportifs, j'ai voilà. Waouh, c'est une dinguerie, quoi.
C'est fou.
Ouais.
Et est-ce que comment est-ce que France
Télévisions des chômeurs aussi
a réagi quand quand t'as voulu te lancer sur Twitch ? Enfin, ça a été quoi la réaction de ton employeur ? Et est-ce que quand tu as du coup ouvert ta chaîne, quand tu as vu les premiers commentaires, il y en a forcément eu des haineux, je pense. Mmh. Est-ce que ça a été difficile de gérer au départ ces commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ou est-ce que tu as su vivre avec et justement répondre et avoir une certaine répartie ?
Est-ce qu'on fait l'employeur d'abord et ensuite les commentaires
haineux ?
Oui,
comme tu veux.
À l'employeur, j'ai eu de la chance. Je pense que 80 à 90% des entreprises de médias à qui j'aurais posé la question il y a 2 ans, est-ce que je peux créer ma chaîne Twitch, m'auraient dit non. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de règle dans notre métier, c'est que mm-hmm. Quand tu es journaliste pour une rédaction, tu appartiens en gros à cette rédaction, tu t'es engagé dans un projet, mm-hmm. et puis en gros, tu fais rien à côté, quoi. Hein, mm-hmm. D'ailleurs, quand tu veux faire autre chose, je sais pas, collaborer avec un autre média, mm-hmm. Ponctuellement, tu dois demander une autorisation. Ouais. C'est dans ton contrat de travail,
d'accord.
Tu demandes une autorisation écrite, et on te dit, oui, Samuel, tu travailles à France Télévisions, mais je veux bien que tu ailles bosser un peu à Europe 1. Je veux bien. Donc, c'est une autorisation écrite pour une durée donnée. Ça s'appelle une autorisation de collaboration extérieure.
Okay.
Tu ne fais pas comme ça. Tu n'es pas libre. Hein. Ton contrat de travail fait que tu es lié à une entreprise. Et c'est normal. C'est mm-hmm. comme ça. Il faut qu'il y ait des règles.
Oui.
Donc, quand je demande à France Télévisions si je peux créer ma chaîne Twitch, ils peuvent me dire non. Et je pense même que 90% des entreprises de médias en France m'auraient dit non en disant « t'es gentil, t'as un salaire ». Mmh. T'es payé pour faire un truc, donc tu vas garder ton énergie et ton temps pour nous et tu vas pas aller faire tes trucs.
D'accord.
France Télévisions m'a dit oui, parce que je pense que ce sont des gens intelligents, parce que ils ont trouvé que c'était professionnellement, intellectuellement et humainement une belle aventure.
Ouais.
Et puis surtout parce que j'avais la chance qu'à la tête de la direction de l'information à l'époque, un garçon qui s'appelle Laurent Guimier. Laurent Guimier, c'était un gamer. C'était un garçon qui connaissait Twitch depuis bien plus longtemps que moi.
Ouais.
Et qui depuis des années travaille sur le numérique et sur les nouvelles façons de parler aux gens, les nouveaux écrans. Donc partout où il est passé, il a essayé de promouvoir ça. Donc quand je suis allé le voir, en fait, il était très séduit parce que justement, il est passionné par ça. Donc j'ai eu cette chance-là de trouver un interlocuteur qui connaissait ça parfaitement. Donc il m'a donné son feu vert. Et puis après, j'ai demandé aussi le feu vert pour la monétisation de ma chaîne, pour en faire un métier. Et ils m'ont dit oui aussi. Donc, je le dis souvent, et c'est très sincère, et ce n'est pas lié au lien de suggestion que j'ai avec mon employeur. France Télévisions est sans doute la seule entreprise audiovisuelle qui aurait pu m'autoriser à le faire.
D'accord.
Je le sais parce que j'ai aussi des contacts avec d'autres chaînes de collègues, de responsables de chaînes que j'ai croisés dans d'autres vies professionnelles avec qui je parle de Twitch et qui m'ont dit assez clairement que sur leur chaîne, je n'aurais pas eu cette liberté. Donc ça, je le sais. Je ne vais pas donner de nom, mais quand je dis que c'est compliqué pour un média traditionnel d'aller sur Twitch, la preuve.
Ouais.
La preuve. Parce que le mélange des genres, tout ça, c'est un peu compliqué. Et d'accord, pour revenir sur les messages, tu disais un peu haineux, qui auraient pu être provoqués par mon arrivée sur Twitch. D'abord, je suis quotidiennement sur Twitter. Donc, les messages haineux.
Tu connais.
Je connais, je gère, je suis habitué, je me suis pris 2-3 sauces. Donc, voilà, j'ai le cuir assez tanné, puis je suis un vieux machin, donc ça va bien. J'étais très bien accueilli sur Twitch. J'étais très bien accueilli sur Twitch par les viewers et par les autres streamers pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'étais introduit par principalement un streamer qui est Étoile, qui m'a fait découvrir cet univers, qui m'a pris par la main, qui m'a montré. Donc j'ai été en quelque sorte invité, donc je ne suis pas venu de nulle part.
D'accord.
Il y a d'autres streamers qui m'ont invité sur leur chaîne d'ailleurs au même moment, même si Étoile a fait l'essentiel du job, Ponce, Marciu sur sa chaîne, voilà, j'ai eu des invitations comme ça qui m'ont fait découvrir Twitch de l'intérieur et qui m'ont donné envie de devenir streamer. J'ai été invité aux The Event 2 fois comme un espèce de guest comme ça.
Ouais.
Et c'est notamment ce que j'ai vu aux The Event qui m'a donné envie de me lancer en disant waouh.
Ouais, je trouve ça fou.
Voilà. Donc j'ai été introduit, j'ai été invité et puis l'autre raison, et du coup elle tient à moi, c'est que les gens se sont vite rendu compte que je venais pas pour de mauvaises raisons. Je venais pas pour envahir Twitch avec la télé, que je venais tout simplement parce que j'étais totalement fasciné par l'outil et que j'avais envie moi aussi de devenir streamer. Les gens ont senti cette sincérité, je crois, dans ma démarche. Et donc, une fois les premiers doutes levés sur la qualité de mes intentions, ben en fait, j'ai été relativement bien accueilli. Alors, il y a eu parfois de la défiance, mais très peu de messages très violents et de haine. Parfois de la défiance par rapport à ma démarche, notamment quand j'ai invité des politiques sur Twitch, qui a provoqué des débats. Donc, parfois, c'était un petit peu agité. Mais globalement, j'ai été accueilli très chaleureusement sur Twitch.
D'accord.
Voilà, ça, c'est cool.
Ok. Et justement, quand tu as invité les politiques, justement avec Jean Castex, ça s'est un peu mal passé. Tu as eu des réactions d'autres streamers, enfin d'amis streamers, qui t'ont dit que, en gros, ils n'étaient pas d'accord avec
c'est de la merde.
Ta démarche.
C'est de la merde ce que tu fais, Samuel Etienne.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses encore que c'est tout de même une bonne idée de les inviter sur Twitch ou est-ce qu'il faut laisser la politique à la télé?
C'est une très bonne question. Donc, je ne vais pas revenir sur pourquoi j'ai invité les politiques sur Twitch. Ça a été un peu une succession de hasards. Je n'étais pas venu sur Twitch pour faire de la politique. Et puis, un jour, des politiques importants, François Hollande, l'ancien président, et puis Jean Castex, le Premier ministre, ont manifesté leur volonté, leur envie de venir sur Twitch, sur ma chaîne. Donc, en tant que journaliste, c'est impossible à refuser. On se dit, waouh, moyen de créer une espèce de lien, de connexion. Est-ce que Twitch peut permettre... C'était ça le rêve de début. Hein. Bon, je suis un peu naïf, mais le rêve de début, c'est... Ah, et si Twitch pouvait être cet outil qui participait à recréer du lien entre les citoyens et les politiques en parlant autrement de la politique. C'était un petit peu le projet. Ça s'est plutôt bien passé avec François Hollande, mais peut-être parce qu'il n'était plus en responsabilité. Et ça ne s'est pas bien passé du tout avec Jean Castex, qui, malgré mes efforts pour lui expliquer la plateforme, a fait un magnifique exercice de langue de bois. Bon, je ne l'en veux pas. Parfois, certains sont comme ça. Il est passé totalement à côté de l'exercice. Il n'a pas compris cette espèce d'exigence d'horizontalité que nécessite Twitch, où il faut un minimum de sincérité, voire un maximum de sincérité, sinon ça sonne fou tout de suite. Donc Jean Castex est venu ici faire une conférence de presse en étant assez, j'ai trouvé, insincère, c'est-à-dire très politique, en esquivant la plupart des questions et en répondant un peu à côté. Bon, j'en ai fait le constat, le chat en a fait le constat aussi, il m'a un peu flingué l'exercice. C'est pas grave.
Oui.
C'est une expérience intéressante. Pour le coup, c'est vrai que j'ai pris un petit bouillon. Dans les viewers m'ont dit que l'exercice n'était pas accompli. Bah, j'étais totalement d'accord, donc je n'allais pas dire que c'était tort. Certains copains streamers m'ont dit qu'effectivement, c'était ni fait ni à faire. Mais il y avait ce discours aussi que Twitch, c'était un bel univers, notamment où il y avait beaucoup de gaming.
Oui.
Un univers qui avait été inventé par des gens selon des codes, selon des valeurs, selon plein de belles choses, et qu'il ne fallait pas polluer. C'est un mot qui est beaucoup revenu. Parmi les accusations que j'ai reçues, c'est: Samuel, tu pollues Twitch. Tu pollues Twitch avec la politique. Voilà. Nous, on veut pas parler de politique. On veut pas voir ces gens. Voilà. On sait où ils sont. On va pas les voir. On va pas les voir dans les meetings. On va pas les voir à la télé.
Ouais.
C'est pas pour les voir chez nous. Alors, j'ai entendu ça.
Oui.
Je comprends.
Ouais.
Je suis pas d'accord. parce que moi je me passionne pour la politique. La politique, idéalement, je radote toujours les mêmes trucs, mais la politique, c'est quoi? C'est la vie dans la cité. C'est comment on s'organise en tant que communauté de citoyens, alors qu'on est tous différents, très différents, et qu'on est d'accord sur rien. Comment on se met d'accord pour vivre ensemble? En gros, où est-ce qu'on prend le pognon et où est-ce qu'on le dépense? La politique, c'est ça. C'est à qui on prend le pognon, entreprise, particulier, etc. À quel niveau on prend le pognon,
ouais.
Et où est-ce qu'on le redistribue? Est-ce qu'on achète des canons? Est-ce qu'on paye des médecins? Est-ce qu'on construit des routes? Est-ce qu'on construit des écoles, etc.? La politique, c'est ça. Donc, c'est essentiel. Alors après, la politique vue par plein de citoyens, et ils n'ont pas tellement tort non plus, c'est aussi les jeux politiques. C'est les ambitions, c'est les magouilles, les trucs, les petites phrases, la langue de bois.
Oui.
La langue surtout. De bois, les discours totalement à côté. Voilà. Et puis, les ambitions. Parfois, la politique... souvent commence comme une passion, une vocation, et puis ça devient un métier.
Oui.
On est élu et réélu,
oui.
Et puis on a des salaires plutôt sympas, puis on a du pouvoir. Voilà. Donc à un moment on est un peu, on tombe du côté obscur de la politique. Donc la politique, c'est ces deux choses-là. C'est un truc noble qui est comment on vit ensemble, puis un truc un peu moins noble, les ambitions personnelles.
Oui.
Bon. Moi, c'est le côté noble qui m'intéresse, bien sûr. Et ce côté noble, avec qui on en parle? Alors c'est là où moi je suis en réflexion. Est-ce qu'on n'en parle qu'entre nous? C'est-à-dire qu'on regarde ce spectacle de la politique et on le commente ensemble. Voilà. Ça, je pense que ça peut très bien marcher sur Twitch. Donc là, parce que moi, je parle de politique tous les matins.
Bah oui, oui.
Et ça pose aucun problème. Donc, commenter l'actualité politique, nos problèmes sur Twitch.
Ouais.
Voilà. Et on en parle ensemble et on débat. Et on échange des arguments. Et c'est passionnant. Et là, on est dans la politique au sens noble. Comment on vit ensemble. Voilà. Ou est-ce que on invite sur Twitch les acteurs de ce spectacle?
Ouais.
Les politiques, en espérant que justement ils comprennent que ici, à un moment, il faut dire la vérité.
Ouais.
Il faut être sincère. Il faut reconnaître les erreurs. Il faut écouter les questions. Il faut se laisser déstabiliser. Il faut s'ouvrir, quoi. Donc, je pense que certains politiques sont capables de le faire parce que je connais des passionnés, je connais des gens qui sont dans la vérité. Et puis d'autres qui sont moins capables de le faire.
Donc,
aujourd'hui, moi, j'ai suspendu les invitations politiques sur Twitch parce que je suis en interrogation.
D'accord.
Quelle est la meilleure façon de parler de politique sur Twitch? Est-ce que c'est en invitant des politiques? Ou en ne les invitant pas. J'ai pas la réponse à cette question.
D'accord.
Voilà. Et puis ça pose plein de questions. C'est-à-dire que moi je stream à la maison.
Oui.
Ben, recevoir un politique sur un plateau, qui est un espace neutre.
Oui.
Ou à la maison, c'est pas pareil.
Bah non.
Bah non. C'est, voilà.
Bah,
et donc ça modifie. Voilà. Le contexte est un peu plus. Ici c'est un peu chill. Donc quelque part en invitant un politique, quelque part je l'amène à moi, vers moi, je l'intègre dans mon cercle, quoi. Alors que je fais pas ça sur un plateau de télé, là on est en rapport totalement professionnel et neutre, donc ça modifie un petit peu l'analyse du discours politique.
Oui.
Moi j'essaie de rester aussi professionnel que je peux, mais vu du viewer, eh ben, y a un côté, ouais, Sam l'amène chez lui, le met dans son cercle, le fait rentrer un peu dans la communauté, et c'est un petit peu ça pose question. Moi je pense que je peux rester totalement professionnel, et vous pouvez vous retaper le stream de Castex et vous pouvez voir que je le laisse pas faire, que je lui rentre dedans pour dire les choses, que je lui dis qu'il répond pas aux questions, que je suis 200% journaliste, mais on est à la maison. Donc ça, voilà. Donc vraie question, est-ce qu'on peut recevoir des invités politiques à la maison? C'est une vraie question, j'ai pas la réponse. Jean Massier par exemple, il reçoit pas les invités politiques chez lui.
Non.
Il en reçoit sur son plateau, je crois. Sur le plateau de Backseat.
Oui.
Donc alors peut-être que la bonne réponse, c'est ça. Mais du coup, bah, ça m'emmerde un peu, parce que Moi, inviter des invités politiques sur un plateau, bah, c'est ce que je fais depuis 25 ans.
Bah, ça vous apporte rien, enfin, ça apporte rien à la communauté, enfin, bah, ça apprend rien. Quoi.
Disons que je vais. Bien sûr que vous pouvez revoir le replay sur Castex, parce qu'il est plus sur Twitch, mais sur YouTube. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais le replay, il est plus disponible. Vous tapez point d'exclamation YouTube sur Twitch, vous allez trouver ma chaîne YouTube qui est gérée par un garçon super sympa. Hop, vous l'avez là. Vous cliquez, vous avez tous mes replays. Depuis 2 ans quasiment, et notamment les plus importants, et vous avez retrouvé cette interview. Et vous allez voir que je me laisse pas faire, que j'ai vraiment fait le job, quoi. Donc je suis en interrogation par rapport à ça.
Ouais.
De toute façon, je n'étais pas venu sur Twitch pour inviter des politiques.
Bah non, non, c'est pas le but.
C'est né d'un accident, donc c'est en pause. Aujourd'hui, je préfère privilégier, par exemple, ce que je fais le matin, la revue de presse, ou mon émission du vendredi, où je reçois des journalistes ou des gens passionnés d'actu. Demain, ça peut être toi d'ailleurs. Tiens, voilà, dans l'émission du vendredi, pour débattre ensemble. De toutes ces questions qu'on est en train d'évoquer.
Ouais.
Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie d'inviter des politiques le vendredi à la maison. Ce n'est pas du tout d'actualité. Quoi. Voilà.
Mais du coup, s'il n'avait pas été en fonction en tant que Premier ministre, peut-être que son discours, il aurait été pas le même.
Sûrement.
Sûrement.
Moi, je crois que le bonhomme est sûrement sympa. Je ne sais pas, il a l'air sympa. Je sais pas, au début, il m'a parlé de ses enfants. Je sentais qu'il y avait un bonhomme cool derrière. Bon, il est en responsabilité. Il est Premier ministre. En plus, il a une vision de son poste qui est un peu particulière. Il est en service.
Oui.
Castex, il l'a dit à plusieurs fois. Il dit, j'ai aucune ambition personnelle. Moi, je suis là pour appliquer la politique décidée par le président. Je n'ai aucun état d'âme.
Mm-hmm.
On me vire quand on veut. Je ne suis pas là pour plaire.
Ouais.
Je ne suis pas là pour séduire. Je suis là pour servir. Donc, il est en mission commandée pour appliquer la politique du gouvernement et la défendre coûte que coûte. C'est là où il fait une erreur, parce que je pense qu'on est aujourd'hui dans un état, heureusement d'ailleurs, d'éveil démocratique, où le côté un politique qui vient défendre une politique coûte que coûte, voilà, y compris en nous mentant un peu, parce qu'il pense qu'il est en mission et qu'il faut qu'il défende la politique de son gouvernement, même quand il y a des erreurs.
Ouais.
Bon, bah ça, pour moi, c'est totalement daté comme façon de faire de la politique. Et c'est en faisant ce genre de choses qu'on va continuer à creuser le fossé entre les citoyens et les politiques. Je donne un exemple très concret avec Castex. Castex, à l'époque, on est en pleine crise sanitaire. Il y a des doutes sur un vaccin qui s'appelait AstraZeneca.
Oui.
Et il y avait plusieurs pays européens, au moment du stream, qui avaient suspendu les vaccinations avec AstraZeneca. Donc la question vient dans le chat, et quelqu'un me dit, est-ce que tu peux demander à Jean Castex, qu'est-ce qu'on fait avec AstraZeneca ? Est-ce qu'il n'y a pas des soucis ? Jean Castex répond ce soir-là, donc on est en fin de semaine, il répond, vous vérifierez, il n'y a aucun problème avec AstraZeneca. Il n'y a aucun problème avec AstraZeneca.
D'accord.
Le lundi suivant, le gouvernement français suspendait l'utilisation du vaccin AstraZeneca en France. C'est-à-dire 3 jours après, quoi. Donc, on ne me fera pas croire que Jean Castex n'était pas au courant des questions. Enfin, si le mec qui dirige Matignon n'est pas au courant des problèmes avec AstraZeneca, alors que 3 jours plus tard, son gouvernement va le suspendre, c'est qu'on va tous mourir. C'est-à-dire qu'il y a un truc. Évidemment qu'il savait.
Ouais.
Évidemment qu'il savait qu'il y avait des doutes. Évidemment qu'il savait que le gouvernement était en train de réfléchir à la suspension. Mais il nous a menti. Il nous a menti, il a dit, il n'y a pas de problème. Et je ne lui demandais pas de m'annoncer avant tout le monde que bah ouais, ça allait être suspendu parce qu'on se posait des questions, mais il aurait pu me dire, pour être honnête, écoutez, ouais, monsieur Étienne, je vois cette question dans le chat, eh bien, des questions se posent sur ce vaccin, des pays européens ont suspendu la vaccination avec AstraZeneca, nous examinons la situation et nous prendrons peut-être une décision dans les prochains jours. Ça, ça aurait été la réponse honnête. Or, il a dit, il n'y a aucun problème avec AstraZeneca. Voilà. Et ça, c'est mentir. Voilà. Quand on fait ça, eh ben, on nie tout ce qui doit être la politique. C'est-à-dire qu'à un moment, lui, il était en mission commandée, je défends la politique du gouvernement, quoi qu'il en coûte, mais il allait jusqu'à mentir.
Ouais.
Quand on fait ça, on détruit le lien de confiance entre le citoyen et le politique, et on abîme encore plus cette relation qui fait que scrutin après scrutin, la participation, elle baisse. Donc moi, ça m'améliore de moi, quoi.
Et c'est pour ça que justement, ils sont moins acceptés sur Twitch, quoi.
Bah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce genre de comportement, tous les politiques payent, quoi.
Ouais.
Alors que moi, je crois que certains sont un peu plus cash. Alors le problème, c'est que c'est facile d'être cash quand t'es dans l'opposition, et c'est plus difficile d'être cash quand t'es au gouvernement. Comme un journaliste, c'est la même chose en fait. C'est intéressant. Un journaliste dans une rédaction, il va avoir une certaine liberté, mais limitée, parce qu'il est dans un cadre qui est défini par d'autres personnes que lui, voilà, un cadre éditorial. Et puis, le même journaliste sur Twitch, il va être beaucoup plus libre. Donc, tout ce que je vous dis là, je ne pourrais pas le dire à la télé, par exemple.
Non, ouais.
Voilà. Et ben, un politique, c'est pareil. Quand il est en responsabilité, il n'engage pas que sa parole,
oui.
il engage la parole de son ministère, de son gouvernement et même du président de la République. Mm-hmm. Donc, bah,
il a les chocottes. Il fait super, ouais.
Et du coup, bah, il est en langue de bois, quoi. Et le même politique dans l'opposition, bah, comme par hasard, il va dire les termes, il va dire ouais, il va dire les choses. Et puis, s'il est élu, s'il arrive en responsabilité, bah, vous verrez qu'il va se transformer un petit peu. Donc, voilà, bon, bah, c'est un exercice difficile, mais dans une démocratie moderne, si le politique n'a pas compris qu'il nous devait un minimum de franchise et de vérité, mm-hmm. on va droit dans le mur, quoi. Les gens vont de moins en moins voter, les gouvernements auront de moins en moins de légitimité, et on va vers des gros, gros, gros problèmes, quoi.
Ouais.
Voilà.
Donc, en gros, par exemple...
C'est pour ça que Twitch
pouvait
être un outil
ouais.
pour recréer de la vérité et du lien, à condition que les politiques qui viennent sur Twitch comprennent l'enjeu, quoi.
Mm-hmm.
Comprennent l'enjeu et nous parlent en sincérité.
Mais du coup, si un jour un politique qui est en fonction veut se lancer sur Twitch, bah c'est pas possible, du coup, avec ce qui s'est passé, par exemple.
Ben.
Enfin, ça va être compliqué pour lui, quoi.
C'est compliqué parce que Twitch est un exercice de vérité.
Ouais. Même si lui se dit sincère, enfin, même s'il se dit moi je suis sincère, je vais vous dire la vérité, mais qu'il arrive sur Twitch et enfin c'est pas du tout la même chose.
Bah, s'il arrive sur Twitch et qu'il a ce comportement de sincérité et de vérité, les gens vont le voir, en fait.
Oui.
Les gens vont le voir, ça se vérifie, quoi. Les gens vont voir s'il y a du mensonge, s'il y a une transformation de la vérité ou s'il y a un dialogue de vérité. Les gens vont le voir.
Mm-hmm.
Donc un politique peut tout à fait venir sur Twitch. Jean-Luc Mélenchon a essayé. Il a une chaîne, je crois. Il fait des choses régulièrement. Mais ça ne tient qu'à lui, quoi. Mais de même façon qu'un streamer, passionné de jeux vidéo ou d'histoire ou de cuisine, si à un moment il est dans un discours insincère,
mm-hmm.
je sais pas, par exemple s'il fait du placement de produits déguisés, par exemple,
oui.
hein, n'importe quoi,
oui.
voilà, je sais pas, imaginons un mec qui fait de la cuisine et puis en fait il fait du placement de produits déguisés, il est en OP commercial mais il le dit pas, bah, si à un moment les viewers vont s'en rendre compte parce qu'ils sont pas complètement débiles,
mm-hmm.
et en fait le lien il va se casser,
mm-hmm.
c'est toujours la même chose, en fait, c'est ça qui est fascinant, tu peux pas être ici dans un truc de posture, de mensonge, de déguisement de la vérité. Parfois je ne veux pas répondre à des questions et oui. je le dis, quand je dis je ne vous donne pas mon salaire, par exemple, je le dis, je l'assume, je vous explique pourquoi, mais je ne mens jamais, quoi. On ne peut pas mentir sur Twitch.
Je comprends.
D'où ce qui crée la qualité du lien.
Et vous voulez préserver ce lien le plus longtemps possible? Est-ce que vous voulez que ce lien il soit au-delà de la plateforme? Est-ce qu'un jour vous aimeriez bien justement faire une sorte de petite convention pour pouvoir rencontrer vos viewers et justement pouvoir parler avec eux?
Ah ouais, j'adore. Bah déjà, je voudrais rencontrer mes modos, parce qu'en fait, ça, c'est dans l'écosystème de Twitch, c'est juste... Ah, il faut que tu... On voit...
Oui, j'ai trop du mal.
Ah, t'as oublié. Donc, je voudrais remercier les modos, et notamment ceux qui sont ce soir. Anonyme31, Francis, Gandalf, Listari, Julo, mm. MMG7F, Petit Dragon Vert de Rage, et Takayoff, et mon ami Nightbot, bien sûr. Vous remerciez encore, puisque sans modos, il n'y a pas de chaîne, et c'est vraiment ultra nécessaire, et en plus, vous faites un super taf.
C'est toi qui les choisis, les modos?
Bah, en fait, c'est toujours la même façon, c'est-à-dire que c'est des viewers qui me proposent leur service.
D'accord.
Un petit DM sur Twitch ou sur Twitter.
Okay.
C'est une offre de service. Après, on discute.
Ouais.
En général, je dis comment tu vois la modération. comment tu aimerais modérer.
Ouais.
Et je vois ce que la personne répond. Il y a un petit échange.
D'accord.
Voilà, parfois, je précise des choses. Voilà. Et puis, et donc, à un moment, je donne les droits à la personne.
D'accord.
Voilà. Et alors, ce qui est génial, et c'est aussi très agréable au quotidien, humainement et intellectuellement, on a un fil, un DM sur Twitter, tous ensemble.
Mm-hmm.
Et, avant, et on échange avant et chaque stream.
D'accord.
Avant et après.
Mm-hmm.
Donc quand j'ai des doutes sur un stream, sur ce qu'on doit faire, on échange quasiment au quotidien là-dessus,
mm-hmm.
et c'est super. Donc à un moment j'aimerais d'abord rencontrer ces gens que je ne connais pas IRL.
Ouais.
Alors le problème c'est qu'ils sont pas tous en région parisienne.
Mm-hmm.
Donc récemment je leur ai dit j'aimerais bien qu'on prenne un café tous ensemble en fin de saison là en juin. Et alors certains m'ont dit ouais super idée mais je suis super loin. Donc déjà ça. Et après bah, avec Joe c'est une idée qu'on a eue aussi. Bon ben voilà il y a une là, on a une petite communauté, il y a un peu de followers, il y a un petit peu d'abonnés aussi.
Mmh.
À un moment, rencontrer ces gens, ceux qu'ils souhaitent, IRL, je sais pas, dans le cadre d'une, je dis n'importe quoi, d'une émission, d'une hebdo Étienne par exemple,
oui.
dans un théâtre,
mmh.
dans un théâtre à Paris, voilà, pour avoir un petit public qui serait constitué de viewers, que mmh. je pourrais voir de vive voix, ça, ce serait super. Ouais, le Stade de France, par exemple, c'est une très bonne idée. Merci, Ronan. Non, puis en plus, ça me permettrait de me faire de la thune, parce que je vendrais les places très chères. Hein, je vendrais les places très, très chères. Je vendrais des produits dérivés. Donc, je pense qu'on ferait des selfies, mais payants. Ouais, 150, 200 euros. La photo. Si elle est floue, on en fait une deuxième, mais c'est encore 200 euros. À un moment, faut être voilà. Il y en a qui font la promo de mon jeu. Allez, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vous rappelle le meilleur cadeau pour Noël. L'info, tu savais ou pas?
Oui, je l'ai vu. Oui.
Le jeu de société qui vient de sortir, l'info Étienne. C'est un jeu de société sur l'actualité. Plein de questions sur l'actu. C'est moi qui l'ai fait. C'est fait par des professionnels en vrai. Voilà. Vous tapez point d'exclamation jeu dans le chat et vous avez plein de liens. Ça fait au moins 15 jours que j'en ai pas parlé. On me dit offre-lui Samuel. Ok.
Oh non.
Ok, mais sous blister alors. Jouez, joyeux Noël, Charlotte.
Je vais pas l'ouvrir comme ça, je vais leur vendre plus cher au marché noir.
Je vous préviens, si vous voyez sur Vinted une boîte d'info Étienne sous blister, c'est la boîte que j'ai offert à Charlotte et je veux bien que vous me préveniez.
Ça va faire comme les cartes Pokémon, vous savez, enfin, tu sais, qui sont vendues à 300 000 euros sous blister.
Tu crois pas si bien dire, il y a mon épouse qui est passée tout à l'heure à la Fnac. Pour récompenser Malo qui avait été très courageux chez le dentiste pour lui offrir un petit cadeau. Et alors, je sais pas, elle a vu qu'il y avait une queue de fou pour des cartes Pokémon, je sais pas, une espèce de coffret qui était en vente 150 euros.
Ouais.
Il y avait déjà plus rien. D'accord. Et devant la Fnac, il y avait des mecs qui le revendaient 400.
Ah non, mais c'est n'importe quoi. Voilà.
Donc, bon, ça par exemple, ça, si ça se trouve, ça va valoir bientôt des centaines d'euros. Quoi.
Je suis en train de lire nouveau jeu en CM, Charlotte, parce qu'avec mes copines, on a l'habitude de faire des jeux de culture G en CM qu'on s'ennuie.
Parce que je vois qu'il y a des amis de Charlotte dans le chat, et ça c'est cool. Quoi. Donc, je sais plus de quoi on parlait. Ah oui. Donc, oui, j'ai envie d'organiser une rencontre IRL avec les viewers. Je vendrai des produits dérivés, des t-shirts, des mugs, voilà, histoire de payer les vacances en Corse. Quoi. tout ça est prévu. Il coûte combien le jeu? Il coûte que dalle. Il coûte, c'est donné. Hein. C'est vraiment, vous allez faire plaisir pour 16,95€. Voilà, c'est en vente partout, quoi. Bon, je t'ai fait un sacré cadeau. Quoi.
Merci.
16,95€.
Trop gentil.
Bah, ouais, je suis comme ça.
Merci. Alors j'ai encore deux questions. Les plus belles rencontres faites sur Twitch.
Tu veux dire après toi?
Oui. Ouais. Parce que moi je sais que je suis là.
Bah.
Et après il y a.
Les plus belles rencontres sur Twitch. Étoile.
Ouais.
Ben, Étoile, c'est le poteau, c'est le maître Jedi, c'est lui qui m'interpelle une nuit du premier confinement en me disant sur Twitter Bonjour Samuel Etienne, est-ce que vous connaissez Twitch? Ça commence comme ça, hein?
Ouais.
Et là, je dis ben non. c'est quoi? Et donc, ça commence comme ça. Et après, il a la gentillesse, la patience de me montrer le truc. Il voit que je suis sincère, que je suis curieux. Bon, il m'explique tout. Hein. C'est Étoile. Il y a plein de rencontres sympas avec d'autres streamers aussi qui, dès le début d'ailleurs, sont très gentils avec moi. Mm-hmm. Au début, j'ai harcelé plein de streamers. Les garçons, les filles, Little Big Wayne, Magla, Ponce, PA, tout pour des conseils techniques. Mm-hmm. Hey, qu'est-ce que vous avez comme micro? Qu'est-ce que... Tout le monde me répondait.
Trop bien.
Des gens super gentils, voilà, les gens cool. La Misera, qui m'a invité deux fois à The Event. Mais si vraiment je devrais parler que des rencontres marquantes, je dirais Étoile bien sûr, et puis Joe.
Ok.
Non, Joe, pourquoi? Parce que Joe, il est arrivé dans ma vie. On s'est rencontré sur le plateau de Popcorn.
Mm-hmm.
Voilà, et il venait faire des photos. Et en fait, il est arrivé dans ma vie à un moment où je doutais un peu, parce que je venais de me prendre la sauce après les politiques.
Ouais.
Sur Twitch, notamment avec après l'épisode de Jean Castex. Et puis donc, j'ai eu un vrai moment de doute. Voilà, on m'avait un petit peu engueulé. Qu'est-ce que tu fous sur Twitch? Tu nous emmerdes avec tes trucs et tout. Et je doutais un petit peu. Et puis il y avait un petit peu des streamers qui avaient un peu exprimé de la défiance par rapport à tout ça. Et Joe, en fait, c'est quelqu'un qui m'a écouté, avec qui j'ai parlé, qui connaît Twitch comme sa poche parce qu'il est là depuis très longtemps. Voilà, plutôt en production, plutôt dans les coulisses. Voilà, même s'il stream un petit peu, c'est plutôt quelqu'un qui produit, qui installe les choses, qui met en place les choses. Et donc, on a beaucoup parlé, il m'a beaucoup parlé de Twitch. J'avais beaucoup de questions parce que finalement, Twitch, c'est un univers qui est très complexe, donc j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Donc, on a beaucoup parlé. Ça a été une épaule, en fait.
D'accord.
C'est quelqu'un qui, à un moment, je vacillais un petit peu, je chancelais un peu. Et Joe, il a été cette oreille, cette épaule, en fait. Un mec à un moment qui s'assoit, qui prend un café avec moi, qui m'écoute, qui m'explique des trucs, qui m'engueule un peu, qui me dit ouais mais ouais, t'es chiant avec tes trucs de politique et tout, voilà. Donc on s'est parlé assez librement et donc en fait c'est une amitié.
D'accord.
Qui s'est créée comme ça et en fait aujourd'hui si je suis aussi présent sur Twitch en fait c'est aussi en partie grâce à lui parce que il a été ce soutien dont j'ai eu besoin à un moment. Donc après aujourd'hui il fait partie de mon quotidien, Joe, c'est-à-dire que quand les streams deviennent un peu compliqués techniquement, ce qu'on a fait dans les musées par exemple, ou l'hebdo Étienne avec 3 caméras, une réalisation, 4 micros, et ben Joe il est là pour, pour m'épauler, parce que bon, mon petit setup là pour le quotidien ça va bien, mais à un moment j'ai besoin d'accompagnement et d'aide, ça c'est Joe. Donc il est important au quotidien dans mes streams, et puis dans mes réflexions, dans mes projets aussi.
D'accord.
Parce que du coup c'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'avancer et de faire des choses, et de construire, et d'avoir d'autres idées, des choses encore plus, de plus en plus ambitieuses. Donc c'est un incontournable dans ma relation à Twitch aujourd'hui, parce que outre le fait qu'il connaît, c'est un super mec.
D'accord.
Ouais. Moi je fonctionne beaucoup à l'affectif, et j'ai besoin de sentir de la sincérité, de l'humanité, de la sensibilité, une volonté de pas nuire, quoi. Et c'est une magnifique personne. Donc
D'accord.
c'est une belle rencontre. Bon, je dis souvent, j'ai plus d'amis parce que je travaille trop. Bah, je me suis fait un ami c'était l'an dernier en fait. Et donc on s'envoie des textos un peu tous les jours, on se raconte des trucs. On est très très différents, on n'a pas le même âge, pas la même histoire. Mais voilà, c'est une belle amitié. Donc Étoile, Joe, tous les streamers que j'ai évoqués là qui ont été sympas avec moi. Et puis plein de rencontres un peu impromptues comme ça, tu vois, c'est là ce qui se passe. Voilà. Et c'est ça aussi parce que du coup, ça me met en contact. Twitch me met en contact, alors ici avec vous, mais aussi dans mon quotidien de streamer, par mes rencontres avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans mon petit cercle professionnel classique, quoi.
Ouais.
Moi, je rencontre des journalistes, quoi. Je rencontre des journalistes, je rencontre des politiques, je rencontre un peu les chefs d'entreprise, enfin les gens qui viennent sur les plateaux, mais c'est tout, quoi. Et ça, c'est une toute petite partie de la France. Ici, je rencontre des gens qui ont plein de profils.
Ouais.
Et puis chez les streamers aussi, tu vois, le vendredi, par exemple, c'est un des kiffs de l'émission. J'invite plein de gens différents, très très différents. Je sais pas, j'ai reçu Ava Mine qui venait de Bordeaux, j'ai reçu Valérie Damido que je connaissais un petit peu mais que j'ai découvert parce que je l'ai invité à la maison, en fait elle kiffe l'info donc c'est passionnant, j'ai invité Monsieur Poulpe, j'ai invité plein de gens différents et donc chaque vendredi c'est un régal parce que je découvre 3 personnes de sensibilités différentes. Là vendredi prochain, je l'ai pas annoncé encore sur Twitter mais je reçois Ben Never. Un youtubeur qui réfléchit beaucoup aux problématiques relations hommes-femmes, sur la masculinité, tout ça. Ben, donc youtubeur super. Je reçois, alors ça devait être Rive, mais Rivendi vient la semaine d'après. Je reçois Bertrand Chameroy de France 5, dans C'est à vous, le beau gosse, là, les cheveux, tout
bien.
Ça. Voilà, Bertrand Chameroy. Voilà, et je reçois Julie Gayet.
Oh, ça j'ai vu.
La comédienne.
Ouais.
Voilà. Qui par ailleurs l'amoureuse et l'épouse d'un ancien président de la République. Mais je ne l'ai pas invité pour ça. J'invite pas la famille à la maison. Je l'invite parce que c'est quelqu'un dont je suis fan depuis toujours. Et puis c'est la journée internationale vendredi de lutte contre les violences faites aux femmes.
Oui.
Et c'est un sujet dont elle voulait parler. Donc je l'ai invité vendredi.
D'ailleurs, à la fac demain, on fait une récolte de protection hygiénique justement pour ces femmes qui sont dans le besoin justement.
Ah, voilà. Ça c'est une des thématiques dont on va parler vendredi.
Ça va trop bien.
C'est cool, hein.
Et en plus, j'ai porté mon mémoire de TPE en première sur les violences faites aux femmes. Et du coup.
Mais tu m'aurais dit ça, je t'aurais invité vendredi.
En vrai, j'ai mon dossier sur mon ordi, donc s'il y a besoin, ouais. Voilà. Avec deux copines de lycée, on avait fait ça et on avait obtenu une super note.
En première.
Ouais, en première.
Sur les violences faites aux femmes.
Sur les violences faites aux femmes. En plus, je m'en souviens à l'époque, il y avait plein de choses qui émergeaient. Donc avec c'était le plan du quinquennat, enfin je sais plus comment ça s'appelle.
Le plan quinquennal, voilà, de lutte contre les violences faites aux femmes, ouais.
Il y avait aussi à l'émission Miss France Iris Pistenard qui avait parlé de ça justement.
Ouais.
Il y avait eu les films qui ont été diffusés, donc notamment avec Alexandra Lange. Donc lui le film il date un peu, mais on l'avait revu pour l'occasion. Et il y avait eu plein d'actions justement cette année-là. Du coup on était très contentes.
Ben, bravo. Je vais remercier quelques subs et quelques raids parce que je vois que Moyo Guichard et il y a Alan Lapince qu'on raid tout à l'heure et pardon je vous avais pas vu. Je remercie les subs Guinome 13. Alors rigolez la pauvre, vous savez pas mais Charlotte.
T'as fait que ton
Charlotte, je vais donner une table. En fait, une table qui est vieille et qui est cassée. Donc j'aurais parlé de Pépipin aussi pardon. Et donc en fait, dès qu'elle s'appuie sur la table, elle descend. Le micro descend. Donc après de temps en temps, elle le remonte discrètement. Voilà, vous voyez. En fait, moi j'ai une bonne table. Impeccable, et je lui ai donné la table pourrie. Voilà. En général, je fais l'inverse, mais on est arrivé un petit peu à l'arrache.
C'est pas grave.
Donc, pour ceux qui nous rejoignent, qui demandent qui est Charlotte, Charlotte est une étudiante en infocom qui fait un mémoire sur Twitch, qui m'a demandé de m'interviewer. pour son mémoire. Et à un moment, je lui ai dit, bah, faisons un stream, comme ça, tout le monde va profiter de tes questions. Voilà. Oui. Du coup, je lui ai filé une table pourrie pour la blague. Guillaume 13, merci pour le 15e mois. De PJ, merci pour le Prime. Ice TV, merci pour le Prime. Kumo 833, merci pour le Prime. Janda, merci pour le Prime. Loki Barnes, merci pour les 5 abonnements offerts à la commu, je n'avais pas vu. Maxfa, merci pour le Prime. Shinchi Sensei, merci pour le 5e mois d'abonnement. Makonen Trap, merci pour l'abonnement. Loki Barnes, merci pour les 5 abonnements à la commu, je n'avais pas vu. Pardon de ne vous avoir pas vu. J'essaie de me rattraper.
Il y a
un
plein de raids.
Petit peu. Oui, il y a plein de raids, mais je reçois beaucoup de raids en ce moment et ça me touche beaucoup. Peut-être parce que comme je raid systématiquement, il y a un échange de, je sais pas, un truc de bon procédé, de truc vertueux qui s'est mis en place. Quoi. Vous avez raison, parmi les rencontres, j'ai oublié Pépipin. Donc, qui est une streameuse, artiste, graphiste, dessinatrice, ouais. Peintre, qui est formidable. C'est elle, en fait, qui fait toutes mes petites émotes, tous mes badges, c'est elle. Voilà. Donc, elle m'accompagne un petit peu sur le côté un peu artistique de la chaîne. Et alors, elle, c'est une magnifique personne aussi. On s'est rencontrés hier, elle, une première fois. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, d'autant qu'elle va s'installer à Paris bientôt. Donc, là aussi, c'est une magnifique personne. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, vous tapez Pépipin, P-E-P-I-P-I-N.
Ah ben il y a quelqu'un qui l'écrit.
Ouais, voilà, exactement. Et donc, d'ailleurs, si vous tapez point d'exclamation émote dans le chat, vous allez tomber sur sa chaîne d'ailleurs. Pourquoi ne pas inviter Charlotte lors d'une prochaine émission le vendredi, Néoskiron. Écoute, j'en ai parlé à l'instant, donc je pense que ça se fera. Voilà.
Pourquoi pas.
Voilà, si Charlotte le veut, bien sûr. Là, on voit El Giganto vient de mettre toutes les petites émotes que Pépipin a dessinées. Samuel avec un cœur, Samuel qui lit le journal, Samuel qui lance un sondage, Samuel qui dort, ce qui n'arrive pas très très souvent, Samuel qui fait la gueule, Samuel qui est vieux, Samuel qui chevauche un dragon, Samuel avec sa famille, tout ça c'est Pépipin. Voilà, voilà, c'est vrai que c'est une des belles rencontres que j'ai faites aussi. Question ?
Dernière question, la chose que vous préférez sur Twitch, à part les raids ?
Faut choisir. Clairement ça. Le chat quoi.
Le chat ?
Bah ouais. Alors tout est bien. Tout est bien, mais le truc le plus fort c'est l'échange en fait. Bah, comment ça? Ah, je voyais un message d'Erendil qui avait été effacé par Nightbot qui parfois fait des bêtises. Tout est bien, mais le truc le plus fort c'est ça. On est dans une société où la question du lien social est posée. Mm-hmm. On est de plus en plus dans nos petites bulles,
oui.
Hein, nos petites chapelles. On regarde nos petites séries. Sur notre petite tablette, dans son coin. Parfois, on est à côté de son amoureuse et on regarde tous les deux programmes différents.
Ouais.
Hein, ben c'est comme ça, on a plus de... Voilà. Tout est fait pour nous conforter un petit peu dans notre bulle et notre confort intellectuel. Parce que les réseaux sociaux sont des outils qui peuvent servir à créer du lien ou à distendre le lien. Ça n'est qu'un outil qui peut faire du bien ou du mal. Et Twitch, justement, est un outil qui crée du lien.
Mm-hmm.
Qui crée du lien. Voilà, moi, je n'ai jamais été en contact avec autant de personnes. Il y a autant de personnes qui pensent différemment que moi qu'aujourd'hui,
ouais.
Grâce à Twitch. Et cet échange quotidien, il est vivifiant intellectuellement, il est humainement très fort, très chaleureux. Quoi. Mm-hmm. Donc s'il n'y avait qu'un seul truc, voilà, ce serait ça, ce serait ce truc-là, cet échange quotidien.
Je trouve ça hyper captivant parce que je n'arrive pas en fait, à détacher mon regard et te regarder toi. Je suis trop captivée par le chat.
Il y a Elonissa qui écrit « Charlotte est tellement à l'aise ». Et ça, Elonissa, elle a raison. C'est-à-dire que je trouve que tu es très à l'aise avec cet outil. Justement, ta façon d'échanger tout en lisant le chat, ce qui n'est pas évident.
Et puis ça difficile.
Tu consacres ton mémoire à Twitch, donc il y a un intérêt préexistant qui est très très fort.
Ouais.
Pour ceux qui ont raté le début, Charlotte se destine à être journaliste. Mais idéalement à être journaliste sur Twitch, c'est-à-dire à créer sa chaîne et à proposer du contenu, notamment à caractère informatif, mais pas seulement.
Ouais.
Donc Charlotte a un vrai intérêt très 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 fort sur Twitch, qui va peut-être se matérialiser par la création d'une chaîne dans pas très très longtemps. Mais je trouve que tu es évidemment extrêmement compatible, quoi. Ça se voit.
Mais j'adore ce support.
Bah ouais, ça se voit. C'est cool.
Et j'aimerais en faire vraiment mon métier.
Charlotte au top, me dit Sophie. Charlotte, si tu lis ce message, cligne deux fois des yeux, dit Warper.
C'est bon.
Elle n'est pas séquestrée. Hein. Je vous rappelle que c'est trop mignon. D'ailleurs, la maman de Charlotte l'a accompagnée.
Ouais.
Et la maman de Charlotte, qui est adorable d'ailleurs, ta maman, est dans la salle à manger avec mon épouse et avec les enfants en train d'attendre Charlotte. D'ailleurs, je fais un coucou à la maman qui doit nous regarder sur la tablette. C'est trop chou.
Elle veut faire coucou à la tablette.
Bah ouais, mais c'est trop cool. J'adore. Je trouve ça génial. C'est trop chaud. Est-ce que tu as à peu près les réponses à tes questions?
Ouais, dans la globalité, ouais.
Ça va?
Parce qu'en fait, vous avez, t'as répondu à beaucoup de questions en même temps.
Oui,
du coup, je suis très contente.
Un peu bavard, quoi. Il y a plein de gens qui font coucou à ta maman, là. C'est trop mignon, c'est trop chou. Ça, c'est voilà, c'est ça. Pour ça, Twitch, c'est sympa. En plus, c'est super parce qu'on s'était dit avec Charlotte qu'on allait faire un stream à peu près de 2 heures.
Mm-hmm.
Là, ça fait 1h55. Donc, on est vraiment dedans. Comme on a encore. Allons jusqu'à 2 heures pour boucler. Donc, bah,
ouais.
à vous la main si vous voulez bien. Merci d'avoir participé d'ailleurs, vous êtes vraiment super cool. Question pour Charlotte ou question pour Sam, et on essaie de répondre. Et après, on fait un petit raid, bien sûr.
Mm-hmm.
Bien sûr. C'est génial de l'avoir invité, Charlotte. Merci, Final Fantasy vérifié. Charlotte, si on te menace de séquestration dans une cave, cligne 3 fois des yeux.
Okay.
J'adore. Marc-Andre, pardon pour l'indiscrétion, mais qui est Charlotte? Je ne vois pas de qui il s'agit. Je viens de vous expliquer. Il y en a qui viennent d'arriver. Charlotte est une étudiante en infocom qui fait un mémoire sur Twitch, qui est venue poser des questions sur Twitch à la maison. Dams1412 et Tifoc, merci pour les subs à l'instant. Peux-tu décrire la cave de Samuel Etienne? Non, ça n'est pas une question.
Juste, je voudrais faire une petite dédicace à tous mes copains de la promo.
Ouais.
Sans qui, vraiment, cette interview, genre, n'aurait jamais vu le jour, parce que j'ai tellement hésité à envoyer le message sur Twitter.
Ah bon?
Ah, vraiment, j'ai eu trop peur, vraiment, parce que je me suis dit, ça se trouve, t'allais pas le voir et que du coup, j'allais me prendre un vent monumental. Mais en fait, pas du tout.
En fait, je vois tous les messages, je réponds à très peu parce que ouais. j'ai un manque de temps. Et donc, tu viens de remercier tes camarades et je les remercie aussi parce qu'en fait, c'est parce que eux ont liké et ont vachement commenté en disant ouais, super idée, Samuel, il faut que tu répondes à Charlotte, qu'en fait, ça m'a intrigué. Et donc, en fait, ils sont, peut-être qu'ils sont avec nous ce soir ou peut-être qu'ils nous verront en replay, mais ils sont pour quelque chose dans le fait que tu es ici. C'est parce que justement, ils sont un peu mobilisés derrière toi. Donc c'était rigolo. Les gens. C'est marrant ça. Écrivain, qui est donc le streamer dont je te parlais, qui est passionné de littérature,
mm-hmm.
dit Charlotte a besoin d'un correcteur pour son mémoire. Je suis à son entière disposition.
Ah bah c'est trop gentil.
Voilà.
C'est quelqu'un vraiment.
Qui, voilà, c'est quelqu'un qui fait. C'est un des trucs qu'il fait. Dans les services qu'il propose aux particuliers, il écrit, il relit.
Ouais.
Voilà. Bon, enfin, peut-être que t'as pas besoin.
Force
à Charlotte pour son mémoire.
Merci.
Me dit Titi qui nous regarde depuis le Québec, je crois. Beaucoup de félicitations, d'encouragement pour Charlotte. J'adore ça, c'est l'humour de Twitch. Mizaris, maintenant que tu as répondu environ 73 fois, pourrais-tu nous expliquer qui est Charlotte? J'adore. Alexandra, oui, Alexandra, on fera un stream de revue de journaux demain, mais pas à 9h30. Parce que j'ai deux grands rendez-vous à France Info demain matin. Donc, je serai un petit peu en retard. Mais demain, revue de presse, Alexandra. Combien de pages le mémoire? C'est une bonne question, ça.
C'est minimum 50 pages,
ah ouais.
Je crois.
Ah ouais.
Ouais, sans compter le corpus.
D'accord. On te souhaite le meilleur dans ta réussite, Charlotte. C'est cool. Tu vois,
merci,
c'est pour
beaucoup.
Ça que c'est sympa ici. Une dernière question qui
ouais.
est posée par Svrin17. Question importante, le café avec ou sans lait?
Avec.
Ah, c'est vrai?
Ouais, avec.
Ah, t'en as pas pris en arrivant parce que
non, parce que j'en prends que le matin.
Mais on est pareil.
Je prends que le matin, café long, et vu que j'ai une grande tâche, je mets du lait par dessus.
Avec du sucre ou pas?
Non.
Ah, pas du tout.
Non.
Ok. C'est incroyable ça. La revue de presse, Julo, je sais pas, j'ai deux rendez-vous importants. À mon avis, je vais pas être à la maison avant 11h demain. Désolé. J'aime pas streamer si tard, mais voilà. Exactement. Quiz Pokémon ce soir? Non, je crois pas. Malo est pas revenu. Désolé. Je crois que Malo, il est déjà au lit là, en fait. Voilà. Bon bah les amis, un grand merci. Je vais remercier Charlotte parce que j'ai passé un super moment.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était vraiment. Alors je suis content d'avoir eu cette idée parce que bah du coup c'était vraiment top. Voilà, tes questions, je les trouvais très pertinentes.
Merci.
Je crois que beaucoup se les posent aussi.
Ouais.
Est-ce que Charlotte va interviewer d'autres streamers pour son mémoire dit Warper?
Bah j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup interviewer les streameuses donc qui ont été attaquées, qui ont justement réagi et été attaquées par rapport aux remarques sexistes qu'elles se prennent tous les jours.
Tu penses à qui par exemple?
Bah, j'aimerais bien Magla et Avamai.
Ouais, bien sûr.
Ensemble avec d'autres streameuses parce que enfin c'est celles que je suis le plus, mais j'aimerais beaucoup les interviewer. Alors j'ai un autre mémoire à faire pour l'année prochaine, donc peut-être justement concentrer ce mémoire sur le sexisme et la misogynie sur Twitch.
Bien.
Donc, voilà.
Il y a des gens qui vont prendre contact pour toi, regarde. On va envoyer des messages à Avamine.
Voilà.
On parle.
Bien.
Il y a Ultia aussi.
Oui, aussi, ouais. Aussi, ouais.
Il y a Maudie aussi, effectivement. Et puis, bon, à un moment, si je peux aider, j'essaierai de faire passer tes messages aussi.
Trop bien.
Enfin, bon, tes collègues vont aussi faire le job parce qu'ils vont liker, ils vont retweeter. tweeter aussi. Donc, shout, un grand merci.
Merci beaucoup.
Parce que je me suis vraiment régalé, c'était super. Voilà.
Merci.
Je pense que nos chemins se recroiseront.
Ouais, bah, voilà. J'espère.
Sur Twitch ou sur ailleurs, puisque bientôt, Charlotte, vous l'avez compris, sera streameuse. Un grand merci aussi à la maman de Charlotte qui est dans la salle à manger pour sa patience. J'espère qu'on vous a nourri et qu'on vous a hydraté, maman de Charlotte, et qu'on vous a donné à boire et qu'on vous a donné un petit peu à manger. Connaissant la maison, je pense que oui. Moi, je vous remercie. Merci pour les subs, pour les beats, pour les abonnements, pour le soutien, pour la qualité de l'échange. C'était vraiment super. Et du coup, on va faire un raid. Et je vois que certains me proposent déjà, notamment des noms de streameuses. On fait comme d'habitude, les amis. Vous me proposez maintenant des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement. Pas forcément des gens qui ont des grosses communautés déjà. Il s'agit plutôt d'aider ceux qui, justement, n'ont pas beaucoup de viewers alors qu'ils sont en train de partager une passion et que le contenu est déjà sympa. Donc, plutôt... des gens qui n'ont pas encore trop de viewers, même si parfois je fais des exceptions et je raid des copains. Je vous mets un petit écran de pause, hop, nous on est là. Je vous mets une petite musique, 2 minutes chrono, pas plus. 2 minutes de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et restez avec nous, on fait un raid tous ensemble. C'est un moment important sur Twitch. Dans 2 minutes chrono, je vous dis à tout de suite.
Musique. Restez là.
Ah oui, c'est restez super, là. Elle a raison, Charlotte. Restez là, restez là. De retour, il reste 20 secondes de pub. On va les attendre pour ceux qui éventuellement ont pris un petit peu de pub. Hop, je viens de leak la chaîne que j'allais raid. Voilà. Pendant ce temps-là, Charlotte continue à se battre avec sa table qui descend toute seule. Je suis vraiment enfoiré. Et en fait, c'est la table surprise. Ouais, normalement, je la prends celle-là. Je suis désolé.
C'est pas grave.
En fait, c'est Charlotte qui a choisi le raid.
Fais avec.
Puisqu'on a regardé un petit peu qui y avait en live. J'ai regardé vos propositions. Et à un moment, Charlotte m'a dit: ah, est-ce qu'il y a telle personne? Voilà, c'est un streamer qui. On est sur Pokémon.
Ouais, c'est ça. C'est un joueur professionnel.
Ouais.
Qui est champion de France, si je me trompe pas.
D'accord.
Et en fait, là, avec la sortie du jeu, il fait des lives exclusivement sur le jeu. Mais d'habitude, il fait beaucoup de lives Pokémon tous les jours.
Et t'aimes bien, je crois.
Ouais, et j'adore. Voilà. J'adore la licence.
C'est Harry underscore live. Le raid est en train de se charger. Et donc, c'est le choix de Charlotte, celle qui a choisi la destination. Dites coucou à Harry, bah, de la part de Papy Sam et de la part de Charlotte. Expliquez-lui qu'on est. Voilà. Qu'on a une fan. Et puis, moi, je suis un papa d'enfant passionné aussi. Qui regarde des streams. Il sub, Malo. Il sub des chaînes de streamers sur Pokémon.
Trop bien.
Tous les vendredis soirs. Donc, Charlotte, mille merci.
Merci
ouais,
beaucoup.
J'ai passé un super moment, mais vraiment. Merci à vous. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, c'est encore mieux. Et voici le raid. Et je vous dis à demain matin, pas très tôt, vers 11h, pour la revue de presse, et vendredi soir pour l'hebdo Étienne, bien sûr. Merci, Charlotte.
Merci beaucoup.
C'était cool.
Merci.
À bientôt, les amis.
C'était vraiment top.
Ciao, ciao.